Donc là, on vient de rencontrer, avant la tenue officielle du conseil, le cabinet Riva, qui est donc en charge du projet de réhabilitation du groupe scolaire Jules Ferry. Il nous a présenté sa philosophie, son concept dans la construction et l'architecture des bâtiments. Et puis plus concrètement, il nous a déjà donné quelques idées intéressantes du projet. Ce qu'il faut retenir quand même, c'est au-delà de la dimension qualitative en termes d'économie d'énergie, vous avez compris que là, il y a des enjeux très importants, en particulier au regard de ce qui nous attend pour l'hiver prochain. C'est, et ça a été encore dit par Frédéric et Michel, qui étaient ce midi, ont travaillé avec la directrice et les enseignants de Jules Ferry, il a su intégrer les préoccupations, les attentes des utilisateurs, que ce soit les enseignants ou nos personnels. Donc je pense que là aussi, bon, les enseignants étaient très très contents que leurs préoccupations aient été intégrées. Ça va jusque tout simplement, ah ben là on a prévu un petit placard parce qu'on n'en avait pas pour ranger des choses, etc. Vous avez vu la logique des dortoirs, une classe, donc par exemple petite section, juste en face de l'autre côté du couloir, il y a le dortoir des petites sections, au lieu de les emmener, comme c'était le cas, dans une grande salle commune. Il y a quand même un travail, à mon avis, de prise en charge concrète des besoins de nos publics qui sera, à mon avis, très satisfaisant à la sortie. Je pense que ce sera un beau projet. Après, on verra comment il va évoluer. Donc, on va ouvrir la séance de ce conseil municipal. On demande à Mireille Papin si elle veut bien être la secrétaire de séance. Voilà. Et donc, le premier point... Alors, je vais citer les absents... Marie-Jeanne Scherrer est absente et donne son pouvoir à Claude Bruno. Michel Cosset est absent et donne son pouvoir à Antoine Di Paolo. Jacques Pellegrin est absent et il me donne son pouvoir, donc pouvoir qui s'en servant. Sylvie Barbe est absente et donne son pouvoir à Christine Gueuzens. Et Jean-François Sahuc est absent et il donne son pouvoir à Michel Baudry. Donc aujourd'hui, lundi 4 juillet à 19h30, 5. On ouvre la séance du Conseil par l'approbation du procès-verbal de la séance précédente. Avez-vous des remarques à faire par rapport à ce procès-verbal ? Pas de remarques ? Donc on va passer à son approbation. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour l'approbation ? Donc le procès-verbal est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Premier point, c'est l'état des décisions prises par le maire. Donc vous voyez, il n'y en a pas eu beaucoup. Ce que je retiendrai simplement, c'est ça peut paraître un petit peu étrange, mais on a effectivement un contrat pour les déchets qui sont stockés au centre technique municipal avec la société Veolia. Donc vous avez la tarification sur les échanges et retraits de bennes. Parce que bien sûr, ce qu'on ramasse, on ne peut pas le stocker indéfiniment au centre technique. Et régulièrement, c'est Veolia qui vient chercher ce qu'on a ramassé. Le point 2 concerne donc le ciel, les travaux d'éclairage public. Donc, il y a lieu d'envisager des travaux d'éclairage public rue Martouret. Vous voyez où elle est. Elle est donc, elle part du CHU. Du rond-point du CHU pour se rendre sur la rue Pierre-Mendès-France. On en a déjà parlé à plusieurs reprises, puisque c'est là que va sortir de terre au mois de novembre un bâtiment qui s'appelle Medipolis et qui va accueillir entre 50 et 60 professions de santé et laboratoires. Conformément à ses statuts, l'article 2 notamment, et aux modalités définies par son comité et son bureau, le ciel, territoire d'énergie Loire, peut faire réaliser des travaux pour le compte de ses adhérents. Donc sur cette opération d'éclairage public rue Martouret, le montant des travaux est de 10 513,65 €. Donc on a une participation, donc on va payer 92%, c'est-à-dire qu'on va payer une somme de 9 672,56 €. Donc ces contributions, bien évidemment, sont annexées sur l'indice de travaux publics 12. Je vous demande de bien vouloir demander au ciel... territoire d'énergie, d'assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux d'éclairage public rue Martouret, dans les conditions indiquées ci-dessus, donc avec une remise de 8%, étant entendu qu'après étude des travaux, le dossier me sera soumis pour information avant exécution. prendre acte que des travaux relevant de la compétence de Saint-Étienne Métropole seront assurés en coordination avec la métropole et que le chantier ne pourra débuter qu'après délibération de Saint-Étienne Métropole. Pourquoi ? Parce que ce sont eux qui réalisent la voirie. Approuver le montant des travaux et la participation prévisionnelle de la commune, étant entendu que le fonds de concours sera calculé sur le montant réellement exécuté. Prendre acte que le versement du fonds de concours au Ciel Territoire d'énergie est effectué en une seule fois. Décider d'amortir comptablement ce fonds de concours en 15 ans et m'autoriser à signer toutes les pièces à intervenir. Des questions par rapport à ça ? Donc c'est l'éclairage public de la rue Martouret. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc cette décision est validée à l'unanimité. Toujours une intervention du ciel, mais cette fois-ci c'est pour le déplacement d'un candélabre rue Léo Lagrange. Toujours conformément à ses statuts, article 2 notamment, et aux modalités définies par son comité et son bureau, le ciel Territoire d'énergie Loire peut faire réaliser des travaux pour le compte de ses adhérents. Pour ce coût du déplacement d'un candélabre rue Léo Lagrange, le coût donc est de 1 217,84 € avec une remise de 2%, il y aura une participation de la commune de 1 193,48 €. Ces contributions sont indexées sur l'indice TP12. Je vous demande donc de bien vouloir demander au ciel Territoire d'énergie d'assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux de déplacement d'un candélabre 8 rue Léo Lagrange dans les conditions indiquées ci-dessus, étant entendu qu'après étude des travaux, le dossier me sera soumis pour information avant exécution. Prendre acte que des travaux relevant de la compétence de Saint-Étienne Métropole seront assurés en coordination avec la métropole et que le chantier ne pourra débuter qu'après délibération de Saint-Étienne Métropole. Approuver le montant des travaux et la participation prévisionnelle de la commune, étant entendu que le fonds de concours sera calculé sur le montant réellement exécuté. Prendre acte que le versement du fonds de concours au ciel Territoire d'énergie est effectué en une seule fois. Décider d'amortir comptablement ce fonds de concours en une année et m'autoriser à signer toutes les pièces à intervenir. Des questions par rapport à cette décision ? Oui ? Alors la raison technique, je ne la connais pas, mais bon, elle doit exister. Frédéric, vous avez une idée ? Rue Léo Lagrange, alors je ne sais pas, je me demande si ce n'est pas sur la partie de rue qui longe l'installation de la station-service Leclerc. Donc, simplement un problème, de mon avis, de nécessité en termes de règles d'éclairage. Corinne ? Parce que ça dépend de la nature des travaux et puis surtout du volume financier que ça représente. Je dirais, plus l'investissement est important, plus la remise est conséquente. C'est un petit peu associé à la durée d'amortissement. Précédemment, c'était sur 15 ans. Là, sur 1 200 €, ça amortit en une année. D'autres questions ? Donc, qui est contre cette décision ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc, elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. On va passer la parole à Antoine Di Paolo pour nous parler de 30 millions d'amis.
Bonsoir. Monsieur le maire expose. Par délibération du 13 décembre 2021, la commune a signé une convention relative à une campagne de stérilisation et d'identification des chats errants sur la commune avec la fondation 30 millions d'amis et en partenariat avec l'association La Compagnie des chats. Il y était mentionné que la participation de la fondation 30 millions d'amis et de la commune pour les années antérieures n'avait pas été entièrement utilisée, en totalité donc. Nous avions un avoir de 1 360 € et que la commune ne verserait donc aucune participation financière pour l'année 2022. Or, cet avoir n'était valable que jusqu'au 31 mars 2022. Il convenait de verser tout de même une participation de 525 €. Je vous rappelle qu'elle représente 50% des frais de stérilisation et d'identification des chats puisque pour une quinzaine de chats, ça s'élève à 1050 euros. Donc, de verser 525 euros à la Fondation 30 millions d'amis pour 2022, des signatures de cette convention. Je vous demande de verser une participation de 525 euros pour 2022 à la Fondation 30 millions d'amis. Cette délibération annule et remplace la délibération numéro 21-12-04 du 13 décembre 2021.
Donc nous avions un crédit, un non consommé, auprès de 30 millions d'amis sur une campagne en 2021 de stérilisation et castration des chats, donc qui était un petit peu morose, ce qui fait qu'on avait ce crédit. Il était théoriquement, mais ça on ne nous l'avait pas bien expliqué, utilisable jusqu'au 31 mars. La campagne a été relancée. Alors, on travaille avec l'association les Amis des Chats, c'est ça ? Amis Chats ? La Compagnie des Chats, bon, dont on s'interroge un petit peu par moment de l'efficacité, mais c'est comme ça, c'est très difficile de trouver un autre partenaire. Et donc là, on vous propose d'annuler la décision du mois de décembre et de leur verser 525 euros, c'est-à-dire l'équivalent d'une demi-cotisation annuelle. Des questions par rapport à ça ? Alors, oui, c'est un peu fort de café, mais bon. En fait, la Compagnie des Chats attrape les chats, les présente à des vétérinaires, et la moitié des coûts sont pris en charge par 30 millions d'amis. Les chats errants. Les chats errants, bien sûr. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est que ces actions sont menées maintenant depuis 7 ou 8 ans sur la commune. Et c'est un fait, parce que j'ai encore eu un habitant qui est intervenu. On a le sentiment que les chats prolifèrent. On ne va pas remettre en cause l'efficacité de l'acte du vétérinaire, mais on pense qu'il y a peut-être beaucoup de personnes qui ont pris des animaux pendant les périodes de Covid et puis qui les ont maintenant laissés divaguer. Alors après, quand ils les capturent, ils vérifient quand même s'ils sont tatoués et pucés, bien sûr, parce qu'à ce moment-là, ils se tournent vers les propriétaires. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui ont eu des animaux et qui les ont lâchés après. Je ne vois pas d'autre explication. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des migrations territoriales comme ça au niveau des chats. D'autres questions par rapport à ça ? Qui est contre ? On s'inscrit dans la continuité des actions qu'on mène depuis plusieurs années. Qui s'abstient ? Corinne ? Aucune abstention. Qui est pour ? Donc, à l'unanimité, puisque l'abstention nous donne l'unanimité. Les points 5 et 6, en fait, sont liés, parce qu'ils sont sur la même thématique, qui est celle de l'adhésion à la plateforme autorisation du droit des sols. Alors, le droit des sols, en fait, c'est la gestion de tout ce qui est demande et autorisation liées à l'urbanisme. Donc, lors de la séance du 6 septembre 2021, le Conseil municipal a validé la signature d'une convention pour l'instruction des demandes d'autorisation et actes relatifs à l'occupation et l'utilisation du sol. Saint-Étienne Métropole propose une nouvelle offre de services aux communes par le biais d'une convention qui s'appelle Service de la plateforme ADS, ADS veut dire Autorisation du droit des sols, niveau 2 de prestation pour une remise graduelle des types d'actes à instruire. Cette convention définit les modalités des offres de services, précise leur champ d'application, la répartition des tâches entre la commune et Saint-Étienne Métropole, ainsi que les modalités juridiques et financières de mise en œuvre. Il convient donc d'approuver cette convention, instruction des demandes d'autorisation et actes relatifs à l'occupation et à l'utilisation des sols niveau 2, plus volet optionnel, avec Saint-Étienne Métropole pour une durée de 3 ans et de m'autoriser à la signer. En fait, ce qui s'est passé, c'est que nous avions déjà cette convention avec Métropole et les autres communes aussi, mais pas aux mêmes dates. Donc Métropole a souhaité simplement qu'on harmonise par convention l'ensemble du dispositif auprès de toutes les communes. Je ne vais pas rentrer dans la logique technique et puis les systèmes de facturation. Donc vous avez bien compris qu'en définitive, c'est toutes les demandes qui arrivent au service urbanisme qui ensuite sont retransmises pour examen, études et avis auprès des services de Métropole et nous reviennent pour valider la décision. Là, on passe sur quelque chose qui va être dématérialisé. Sachant qu'on avait déjà signé la convention initialement en septembre 2021. Des questions sur cette... je dirais que c'est une régularisation en termes de date. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? C'est adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Le point du jour numéro 6 va en complémentarité. Alors, puisqu'il s'agit donc d'une mise à disposition d'un outil informatique dématérialisé, c'est complémentaire à cette convention, dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation et actes relatifs à l'occupation et l'utilisation du sol, Saint-Étienne Métropole propose, par le biais d'une convention, la mise à disposition d'un outil informatique de dématérialisation qui s'appelle DDC, permettant de recevoir et d'instruire les demandes d'autorisation d'urbanisme sous forme dématérialisée. Il convient donc d'approuver cette convention de mise à disposition de l'outil informatique de dématérialisation des autorisations d'urbanisme avec Saint-Étienne Métropole pour une durée de 8 ans et de m'autoriser à la signer. Donc là, on passe donc. 8 ans. Une durée de 8 ans. Donc voilà, c'est le pendant de la convention. On met en place une convention pour organiser le travail d'études et de délivrance de l'ensemble des permis liés à l'urbanisme. Et là, c'est le deuxième élément, c'est-à-dire sous forme d'une dématérialisation. Alors, bien sûr, ça a un coût, hein, mais c'est un coût pour l'ensemble des communes. Donc vous avez eu l'ensemble de la convention. Qui précise quelles sont les typologies de demandes, comment on travaille. Alors, moi, je regarde simplement les conditions financières. Donc, on est dans la logique de 6 000 à 10 000. Ça veut dire que ça nous coûtera 5 000 euros par an. Mais ça, c'est budgété de toute façon. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Après, c'est une affaire de technicien. Des questions par rapport à ça ? Je ne vais pas vous faire une démonstration de l'outil aujourd'hui parce que je ne suis pas sûr que je saurais m'en servir. Parce qu'on signe régulièrement beaucoup, beaucoup, beaucoup de documents. Sachez qu'une déclaration d'intention d'aliéné, donc là, une déclaration d'intention de vente, c'est souvent 5 fois le même dossier avec 7 ou 8 documents identiques. Donc ça veut dire que pour une demande, on va avoir une quantité de documents à signer qui est assez considérable. Bon, j'espère quand même qu'avec cette dématérialisation, ça ira un peu plus vite. Mais je vois que Frédéric me dit non. Donc, ça va peut-être accélérer les circuits, mais certainement pas la lourdeur administrative qui y est associée. Les DIA ne sont pas concernés. Très bien. Donc, pour un abri ou quelque chose comme ça, où je peux en changer des fenêtres en porte-fenêtres, oui. Mais pour vendre, non. Bon, bah, très bien. Ce sera peut-être la prochaine fois. Donc, la question suivante. Porte. Ah oui, on n'a pas voté, c'est ce que je me disais, que c'est moi. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc, la décision est adoptée à l'unanimité. Vous avez reçu un document qui émane de la préfecture et qui s'appelle le plan de protection de l'atmosphère et qui concerne les secteurs Saint-Étienne, Loire-Forêt, donc deux communautés de communes. Je ne vais pas vous lire ce document parce qu'en fait, il y a plusieurs étapes. Vous avez eu donc, avec l'envoi du Conseil, un document qui émane de la préfecture. C'est ce document. Il reprend donc l'ensemble de la philosophie liée à la protection de l'atmosphère, protection de l'air. Et quand on le lit, enfin, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais on ne peut être que d'accord avec tout, a priori. A priori. Et à la fin, il y a des petites fiches actions, mais qui n'en disent pas plus, qui sont parfois très techniques, qui sont regroupées par thématiques. Industrie et BTP, résidentiel et tertiaire, mobilité et urbanisme, transversale et agriculture. Ce document Ce plan doit être validé, doit être soumis à l'ensemble des conseils municipaux et des conseils des intercommunalités, donc en l'occurrence Saint-Étienne Métropole et Loire-Forêt, je crois. On était en conseil plénier avec Michel jeudi, et donc on a examiné ce document dans le cadre de Saint-Étienne Métropole. Saint-Étienne Métropole a eu une lecture plus concrète de ce document, puisqu'en fait, dans ce document, il y a des principes, beaucoup de notions techniques, mais ce qui nous intéresse, c'est à la fin les mesures pratiques. Donc, on doit se prononcer par rapport à ce plan. Donc, toutes les communes doivent se prononcer. Les intercommunalités également. Puis après, il y aura toute une logique d'enquête publique. Enfin, ça va encore être assez long. Donc, ce que je vous propose, mais c'est la même chose, mais c'est revu et corrigé par Métropole. J'ai fait une petite extraction des documents de la Métropole. Alors, on prend toujours les mêmes introductions. Alors, c'est peut-être, je vais essayer d'être quand même assez concis, mais c'est quand même assez parlant. Donc, le programme d'action du plan de protection de l'atmosphère. Le périmètre retenu. Alors, ce n'est pas les documents que vous avez. C'est moi qui ai repris la formulation de Saint-Étienne Métropole. Le périmètre retenu pour l'application des mesures de ce troisième plan de protection de l'atmosphère correspond à Saint-Étienne Métropole, 53 communes, et Loire-Forêt agglomération, 87 communes. Donc ce sont ces deux agglomérations qui sont concernées. Ce périmètre vise à couvrir de manière cohérente l'ensemble des zones présentant des dépassements de concentration d'un ou plusieurs polluants. Pour ce troisième PPA, l'objectif principal retenu est d'atteindre les objectifs du prépa 2030 dès 2027. Le PPA définit 31 actions réparties en 5 secteurs. Donc on va retrouver les thématiques que vous avez dans les documents. Secteur des transports, mise en place d'une zone à faible émission mobilité. C'est le cas puisque Saint-Étienne Métropole a mis une ZFE, un triangle, qui est limité par la 88, la 72 et la rocade d'Auchan. Donc cette action a été menée. Aider le renouvellement du parc roulant des professionnels et des collectivités. Viser des objectifs de renouvellement des flottes de véhicules de services publics plus ambitieux que les objectifs réglementaires. On adhère forcément. Mais quand on gère une collectivité, à un moment on se dit comment on va payer ? Développer les réseaux d'avitaillement en énergie alternative. Accompagner la transition environnementale de la logistique urbaine. Donc sur ces paramètres, Métropole dit on valide, mais en revanche, la Métropole émet des réserves quant à l'action inscrite dans le projet de PPA et qui demande aux collectivités de s'engager à conserver des emplacements fonciers pour des espaces pour la logistique urbaine. Cette notion-là, vous ne l'avez pas dans le document. C'est en analysant plus à fond l'ensemble des paramètres qu'on va plus loin et qu'on découvre ces exigences. Donc Métropole propose que le PPA soit modifié dans ce sens. Les collectivités locales intégreront dans leur réflexion sur le foncier économique la prise en compte des besoins pour la logistique urbaine. En fait, dans le PPA, il était dit on doit réserver des espaces pour le développement de tout ce qui va être logistique urbaine, c'est-à-dire des plateformes logistiques, des entrepôts de stockage, etc. Donc une obligation et Métropole souhaite que ce soit plutôt une intégration dans les réflexions sur l'évolution du foncier économique. Pas une obligation, mais oui, on l'intégrera. Ça, c'est une des premières réserves. Ensuite, donc il y a tout un ensemble d'actions, encourager à l'adhésion au dispositif objectif CO2, adapter les vitesses de circulation sur les axes routiers d'intérêt national entre Givors et Terre-Noire, bien évidemment. Limiter la fraude à l'AD Blue. Alors, l'AD Blue, c'est un produit qu'on intègre dans le gasoil pour le rendre moins polluant. Bon, je ne savais pas qu'il y avait des fraudes par rapport à ce produit, mais apparemment, ça existe. Sur le secteur de la mobilité, structurer l'offre alternative à l'autosolisme. Faciliter le recours au mode actif, en particulier le vélo. Suivre et accompagner les mobilités durables des entreprises et des administrations. Très bien. Étudier l'opportunité d'ouvrir une voie dédiée aux covoitureurs sur le réseau routier national. Donc, ça serait entre, donc dans le sens Lyon-Saint-Étienne, entre la Varizelle, donc à la sortie de Saint-Chamond jusqu'à Terre-Noire, et sur la 72, entre Andrézieux-Boutéon et Terre-Noire. Ça veut dire que la voie de gauche serait strictement réservée au covoiturage. Alors déjà, quand vous prenez cette autoroute, vous êtes limité à 90 sur la file de droite, les camions à 80, et passent allègrement sur la file de gauche pour vous dépasser. Si en plus, ça doit être réservé au covoiturage, alors après, bon, il y a des explications, comment on fait. C'est-à-dire qu'il y aura des radars intelligents qui verront combien il y a de personnes dans un véhicule. S'il n'y en a qu'une ou deux, le véhicule sera verbalisé. S'il y en a trois ou quatre, il ne le sera pas. C'est intéressant comme démarche. Mais voilà, moi je me dis que ça serait peut-être bien déjà de verbaliser tous ceux qui roulent trop vite, et en particulier les poids lourds. Mais ça, c'est un point de vue. Hein. Mais c'est une opportunité. Alors en plus, c'est sur des petits secteurs. Bon, je sais pas. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Alors après, on pense ce qu'on veut de ce genre de réflexion et de plan. Où il y a beaucoup. Comment ? Oui, je sais bien. Mais là, on est sur le secteur, donc Loire-Forêt et Saint-Étienne. C'est des petits tronçons. Alors, on comprend bien. Andrézieux, Terre-Noire et Terre-Noire, Saint-Chamond. Très bien. En plus, c'est là où il y a, si on prend Terre-Noire, Saint-Chamond, il y a pas mal de. Il y a tout un axe où il y a trois voies. Mais c'est vrai que. Moi, je veux bien, mais. Non, mais. Ce sont des intentions. Alors après, on verra comment ça pourrait être formalisé. Et qui ? Qui va formaliser ? Qui va verbaliser ? Mais c'est comme les problématiques de la zone ZFE. On est concernés, nous. Alors, on nous a dit, vous êtes concernés à Saint-Prix. On ne va pas mettre nos policiers municipaux à la sortie de l'autoroute pour verbaliser les véhicules polluants. Mais on l'est, indirectement, parce que dans le triangle, il y a le Bois-Monzil. Et le Bois-Monzil, une partie, c'est Saint-Prix. Bon, alors, après, on verra. Mais je pense que nos policiers municipaux ont autre chose à faire que de regarder si sur un véhicule utilitaire... il y a une vignette qui lui permet de circuler ou pas. Mais bon, c'est comme ça. Donc on aura à se prononcer là-dessus. Dans le secteur urbanisme, donc limiter l'exposition des populations dans les zones les plus polluées, bien évidemment. On ne peut pas être contre. Pour les nouvelles constructions, l'action vise d'une part à repousser l'implantation d'établissements recevant du public sensible et les aires de jeu hors des zones exposées à une qualité de l'air dégradée, et d'autre part, sur ces mêmes zones, à prévoir des mesures constructives particulières. Oui, bon. Là c'est-à-dire qu'une maison de retraite ou une crèche, on la construit plus, on ne donne plus d'autorisation de construction en bordure d'autoroute. Et là où elles existent, il faut les protéger. Je me pose des questions. Après, c'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure, c'est un recueil d'intentions auquel on ne peut qu'adhérer. Mais concrètement, pratiquement, je ne sais pas. Je ne sais pas, après... Alors, c'est aussi un catalogue qui permet de structurer l'avenir. Ça veut dire qu'évidemment, demain, si on doit construire une maison de retraite en bordure d'autoroute, ben, on dira non. Ou une crèche. Mais par exemple, on a une crèche qui est sur la rue Pierre-Mendès-France. De l'autre côté, il y a l'autoroute. Bon, la CAF et la PMI n'ont pas dit non quand l'autorisation a été accordée. Et on regarde ça, l'environnement, la circulation et tout. Donc là, ça va un petit peu plus loin. Moi, ce qui m'interpelle, c'est que quand on nous dit quand ça existe, il faut protéger. Mais on ne nous dit pas comment. Alors, on verra, hein, bon, après, dans le temps, comment ça évoluera. Conditionner l'extension urbaine à la présence de transports en commun et de voies en mode actif. Tout à fait d'accord. Et donc, là aussi, Métropole réagit. Concernant donc, ces deux dernières dispositions, la Métropole émet les réserves suivantes. L'identification des bâtiments les plus exposés devra être réalisée, mais leur traitement devra être décidé au cas par cas, avec le cas échéant des traitements pouvant être mis en place au-delà de la temporalité du PPA, donc dans l'avenir. Par ailleurs, la lutte contre l'étalement urbain fait partie des objectifs de la métropole. Pour autant, fixer un objectif de 90% de croissance démographique situé prioritairement dans les centralités est trop restrictif et pouvant aller à l'encontre d'une qualité de vie dans les zones de centralité. SEM souhaite que l'objectif soit formulé en termes de tendre vers un objectif de Parce que là aussi, on ne le retrouve pas dans le document de la préfecture. On nous disait qu'il faut urbaniser à 90% dans les centralités. Alors, oui, on urbanise. Là, c'est logique tout ça. Hein. Ça évitera de dégrader des terres agricoles ou des terres rurales. Mais après, il faut être réaliste. Parce qu'on va vers une hyper-concentration. Et on a une réaction, par exemple, du maire de Fontanay, commune éminemment rurale, qui dit « je m'oppose à ce dispositif ». Il a fait voter contre son conseil municipal. Parce qu'il dit « moi, en tant que commune rurale, dit, on concentre les populations dans les centres urbains, ça veut dire que moi, je vais continuer à perdre de la population, je vais perdre mes commerces, je vais perdre mon école, et demain, mon village va être un village mort. Donc, je m'oppose à cette règle des 90% de centralisation. Et donc, métropole dit, ça peut être un objectif, mais certainement pas une obligation. C'est pas réaliste. Secteur résidentiel et tertiaire, dont interdire l'installation et l'usage de certains appareils de chauffage au bois non performants, éradiquer les appareils de chauffage au fioul, faciliter le renouvellement des appareils de chauffage au bois peu performants, encourager à l'utilisation de bois de qualité et aux bonnes pratiques de chauffage. Accompagner et soutenir les travaux de rénovation énergétique des logements et des bâtiments. Limiter les utilisations de solvants et autres produits d'entretien émetteurs de composés organiques volatiles, COV. Dans le secteur agricole, améliorer les connaissances relatives aux émissions territoriales des secteurs agricoles et forestiers. Dans le secteur industrie, BTP, alors c'est là aussi que métropolisé, mais ce n'est pas forcément un enjeu métropolitain, c'est plutôt du côté de la DREAL qui aura en charge le suivi d'un certain nombre d'actions, comme améliorer les connaissances des émissions industrielles, réduire les émissions en oxyde d'azote des plus gros émetteurs industriels, etc. etc. Et puis la dernière... il y en a encore une. Valoriser et diffuser les bonnes pratiques en faveur de la qualité de l'air sur les chantiers. Bon. Et sur le secteur transversal, organiser la gouvernance de l'air et sensibiliser le grand public à la qualité de l'air, former les acteurs relais et favoriser l'engagement des citoyens. Donc, le 16 juin, métropole, le bureau de métropole avait émis un avis favorable à l'unanimité sur ce dossier, compte tenu des réserves, et c'est ce que nous, on vous propose aujourd'hui, dans notre verbalisation que je vais reprendre. Est-ce que par rapport à ça, avant qu'on reprenne sur la délibération, vous avez des questions? Alors moi, je crois que personne ne peut être contre un tel projet ou de telle perspective. Parce qu'à travers l'amélioration de la qualité de l'air, c'est l'amélioration de notre qualité de vie. Corinne Mourgue.
Oui, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que je ne suis pas sûre qu'on attrape par ce biais-là tout ce qui va permettre de sauver l'atmosphère, l'air et tout ce qu'on veut, et le monde de demain de manière générale, parce que mettre des choses de contournement, construire des crèches ou des EHPAD loin des autoroutes, moi, si je réfléchissais autrement, je dirais qu'on supprime les voitures et on fait un peu différemment. Donc, moi, je le trouve très, très ambitieux, je suis d'accord, je partage, c'est-à-dire que quand on le lit, on se dit que c'est plutôt intéressant, mais concrètement, en application, je ne suis pas sûre que ce soit la bonne méthode pour faire des grands pas sur le sujet, quoi. Moi, ça me laisse un peu sceptique, tout ça.
Alors, c'est un plan d'État, hein, donc on ne nous demande pas de participer à l'élaboration d'un plan de protection de l'atmosphère. On dit voilà ce que prévoit l'État, c'est le troisième, et vous devez vous prononcer pour, contre ou vous abstenez. Et c'est ce qui s'est dit d'ailleurs à Métropole, hein, où on a des personnes qui sont montées en disant oui, mais à Saint-Étienne, et le président a dit mais c'est pas la question. La question c'est comment on se positionne par rapport à cette demande émanant de la préfecture, donc de l'État. Donc on le voit bien, les réserves formulées par Métropole, celles que moi on va vous proposer, ce sont des réserves où on dit qu'il ne faut pas aller à nous imposer 90% de centralité, mais tendre vers. Ça veut dire quoi, ça? Je ne sais pas, moi. On a des communes rurales qui disent c'est très bien, on veut garder nos agriculteurs, nos champs et nos espaces verts, et d'autres qui disent non, surtout pas, il faut nous faire venir de nouvelles populations. Donc quel que soit le territoire en fonction de la commune, les enjeux et les approches ne sont pas du tout les mêmes. Donc faire une règle générale, le plus bel exemple c'est de réserver une voie pour le covoiturage sur l'autoroute, moi ça me fait rigoler, on voit bien un semi-remorque, une voiture avec 4 personnes dedans, un autre semi-remorque, et tout ça qui double les voitures qui roulent à 90. Enfin, c'est vrai que ce sont des problèmes, évidemment. Alors il y a des ébauches de réponses, mais ça s'installe dans une durée, et c'est dit hein, quand même quelque part. Ce qui importe, c'est la prise de conscience individuelle, avant toute chose. Voilà. C'est si on peut travailler, se déplacer par un autre mode que la voiture, eh ben on l'utilise. Si dans son entreprise, on a 3 ou 4 collègues qui habitent dans le même secteur de résidence, eh ben on voit avec eux si on peut se déplacer ensemble. Voilà, c'est ça l'idée un petit peu. Mais bon, ces règles, c'est comme la zone ZFE, bon, elle existe maintenant. J'ai quelques interrogations. Alors c'est pareil, il y a d'autres enjeux sur les chaudières à fioul. Elles sont interdites maintenant. Les chaudières à bois, donc c'est les chaudières à bois, mais qui sont mal utilisées ou avec des mauvais combustibles. Très bien, mais toujours pareil, la personne qui doit changer sa chaudière, si elle n'a pas l'argent pour prendre une bonne chaudière à bois, pour mettre du bon combustible, même avec des aides d'État, ben, elle ne le fera peut-être pas. Le fioul. Ah oui, non mais chaudière, oui, ben, c'est donc pour ça qu'il faut passer à la chaudière à bois. Des réactions par rapport à ça? C'est vrai que c'est... De toute façon, on n'a même pas à dire... on s'abstient, puisque de toute façon, si on ne formule pas une opinion dans les 2 mois, c'est considéré comme favorable. Alors en plus, le dossier nous arrive mi-juin. C'est ce qu'ont dit certains collègues. On doit répondre avant le 18 ou le 28 août. Il y a beaucoup de communes où, juillet août, il n'y a pas de conseil. Hein. Donc, beaucoup ont demandé à la préfecture un délai supplémentaire pour soumettre le dossier à leur conseil à la rentrée. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, nous, la formulation, moi, je vais vous la, quand même lire la délibération. Oui, pardon.
Blanchard Hubert, j'ai juste une question. Moi. C'est une mesure qui est prise au niveau local ou national?
C'est un dispositif national qui est décliné localement par la préfecture à son rythme et en fonction des enjeux territoriaux.
Et ça représente combien de pourcentage? Si on prend le monde global, nous, on va faire un effort pour éviter de polluer, faire prendre tout un tas de mesures. Donc, on représente combien de pourcentage globalement, sachant que les États-Unis ont voté, la Cour suprême a dit maintenant on peut polluer à tout va. Donc, nous, c'est on fait un effort, mais c'est une goutte d'eau dans la mer, ce qu'on va faire.
Oui, mais déjà, il faut bien commencer à un moment. Hein. Bon, c'est les petites rivières, les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Après, on est dans une logique de responsabilité. Bon, après, comment un PPA sera décliné dans le département, je ne sais pas moi, de l'Isère ou des Landes, je ne sais pas. Là, on est confronté à une interrogation. Pourquoi ça sort maintenant? C'est le troisième, donc on peut en conclure que le deuxième est arrivé à échéance. Bon, il n'y a pas vraiment de terme. À un moment, ça tient dit, ok, mais bien après le terme de ce troisième PPA. On ne le connaît pas, le terme. Donc, c'est... Deux. Nous, 2027, c'est ça. Bon, après, on verra. Ça fait partie aussi de d'autres dossiers qu'on a eus sur un petit peu dans la même logique, sur les aires d'accueil des gens du voyage ou des choses comme ça, où il y avait des enjeux politiques, économiques, financiers, sociaux. Bon. Franchement, à Métropole, ça n'a pas suscité un engouement remarquable. Hein. Bon. Michel.
Oui, Michel Baudry. Moi, effectivement, je suis d'accord, il faut que les choses évoluent. Il faut bien sûr préserver notre air, notre atmosphère. Mais dans ce projet, finalement, on ne nous donne pas de réponse. Par exemple, effectivement, en ce qui concerne l'autoroute, par exemple, on pourrait penser que les gens vont plus se déplacer en train. Sauf que quand on connaît, on va dire, entre Lyon et Saint-Étienne, les problèmes de trafic, on n'est pas tous les jours arrivé au travail à la bonne heure si on y arrive. En ce qui concerne l'autoroute, on sait très bien que l'autoroute est quand même saturée. Donc, est-ce que, par rapport à ce projet-là, si on vote, est-ce qu'on aura des solutions derrière pour régler les problèmes? Ou alors on va se retrouver avec des problèmes supplémentaires pour la circulation de tous les citoyens? Alors, comme dit Hubert, oui, c'est bien, on a envie de participer, que les choses avancent, puisqu'aujourd'hui, on est quand même à un tournant. Au niveau de l'écologie, il y a plein de choses à faire. Mais est-ce qu'on ne va pas se retrouver dans une impasse avec d'autres problèmes? C'est bien beau de vouloir faire comme toute la France, d'accord, mais si chaque région a des problèmes, chaque département a un problème à régler, et qu'on dit, bah oui, on va aller dans le sens de l'écologie, en admettant, mais on n'a pas réglé nos problèmes. Alors, c'est ce qui me gêne un petit peu. Moi, je veux bien aller en avant, mais pas être dans l'impasse.
Je reviens à la voie de covoiturage. Donc, je pense que ça va poser des problèmes de circulation, puisque, si j'ai bien compris, c'est la voie de gauche. Et comment on fait, alors, pour doubler en double?
Alors, c'est sur les routes à trois voies, puis pour doubler, tu peux toujours doubler.
Ouais.
Tu seras, y aura peut-être plus de véhicules, mais c'est même pas certain d'ailleurs.
Oui, mais d'autre part, comment peut-on vérifier si c'est vraiment du covoiturage?
Alors,
bien souvent, les vitres sont plus ou moins teintées à
oui,
l'arrière,
non,
d'accord.
Ouais. D'accord, mais après, non, je crois qu'il ne faut pas se focaliser sur des réponses pratico-pratiques. Je vous l'ai dit, c'est un recueil d'intentions. D'attention pour aller dans le bon sens. Voilà, c'est ça en fait. Après, qu'est-ce qui sort d'un plan comme ça? Quelqu'un peut me dire ce qui est sorti des deux premiers? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si ce n'est d'aller dans, effectivement, tu parlais du train, ça fait partie des modes alternatifs, le vélo, enfin tout un ensemble, donc le covoiturage, ça amène, à partir du moment où on affiche un plan, donc là qui serait plutôt Loire-Sud, hein, puisque c'est métropole et Loire-Forêt. D'ailleurs, pourquoi il n'y a pas Roanne? Je ne sais pas. Bon, enfin, mais c'est parce qu'il y a une concentration urbaine plus importante. C'est une forme de prise de conscience. Dire voilà, on a fait le job, on a conscience qu'il faut aller dans ce sens. Il y a tout un ensemble de mesures. Dire augmenter le contrôle de la qualité de l'air sur les chantiers. Bon, je ne sais pas, mais immédiatement, on dit c'est très bien. Pour que les ouvriers sur les chantiers travaillent dans un meilleur environnement, respirent mieux et tout. Mais comment concrètement on fait? Voilà, c'est ça. Mais au moins, il est marqué que ça fait partie des projets, des intentions, de ce qu'il faudrait faire. Concrètement, on n'a pas les solutions. On dit étudier la possibilité d'une voie réservée au covoiturage. Oui, donc il y a au moins trois voies. Bon. Et puis après, quoi.
Même avec trois voies, ça va être compliqué.
Non, mais ça va être compliqué, ça ne veut pas dire qu'on va le faire. C'est étudier la possibilité de. Après, peut-être que la possibilité montrera que ce n'était pas possible. Il y a eu des longs débats, et vous savez qu'il y a des groupes de travail qui travaillent sur le renforcement des liaisons entre Saint-Étienne et Lyon avec l'abandon de la 45, en particulier sur le nœud de Givors. Là aussi, il y a des gros projets, que ce soit ferroviaires ou autoroutiers. Ce sont des projets. Moi, quand je me souviens que sur le dernier mandat, j'avais vu un projet de doublement de l'accès à l'autoroute à la hauteur de Ratarieux, avec des voies directes qui allaient sur Auchan, des passerelles. Des projets existent. Ils existent et pourtant, on ne les voit pas forcément aboutir. Tout le monde dira, il y a un problème quand on arrive à Andrézieux, qu'on veut aller vers Saint-Just-Saint-Rambert, le soir. Qu'est-ce qui se passe? Puisque 3, 4, 5, 6 kilomètres avant, c'est saturé. Donc il y a sans doute des réponses, des réflexions qui ont été engagées par rapport à ces problèmes, mais est-ce qu'un jour on en verra la matérialité? J'en suis pas certain. Bon, la première réponse, c'est ça coûte. Et qui va payer? Bon. Ah, tiens, il y a un petit bout de route métropolitaine, c'est la métropole. Ah ben non, il y a une autre partie, c'est départemental, c'est département, mais c'est l'autoroute, donc c'est le national. Bon, il y a ça. Hein, le plus bel exemple qui nous concerne directement, c'est le doublement de l'échangeur de l'avenir au Bois-Monzil, qui était dans le plan État-région, qui a été abandonné, c'est Métropole qui le reprend. Et donc, il va être réalisé, ce doublement d'échangeurs. Puisque au moins, l'échangeur de l'avenir, vous pouvez sortir en venant de Roanne ou rentrer à la hauteur du musée pour aller vers Roanne, mais pour aller vers Lyon, il n'y a rien, ni sortie, ni entrée. Donc ça, ça va être fait. Mais c'est parce que Métropole l'a repris à son compte, alors que c'était bien, depuis 10 ans, dans un plan qu'il y ait la région, le département et l'État. Bon. C'est pour ça qu'on dit souvent, mais il y a des dans les cartons, on a déjà parlé, ça n'a pas abouti. C'est vrai, puis à un moment, ça sort, ça se fait, ou alors ça disparaît. Donc je vous propose la formulation suivante par rapport à ce dossier. Je vous demande donc de donner un avis favorable sur le projet donc de plan de protection d'atmosphère Saint-Étienne-Loire-Forêt, PPA 3 SELF, Saint-Étienne-Loire-Forêt, pour la période 2023-2027 et sur les mesures relatives aux émissions de polluants des systèmes de chauffage au bois avec 3 réserves. Ce sont celles de Saint-Étienne. Hein. Sur la demande de s'engager à conserver des emplacements fonciers pour des espaces pour la logistique urbaine, il est proposé que le PPA soit modifié. Les collectivités locales intégreront dans leur réflexion sur le foncier économique la prise en compte des besoins pour la logistique urbaine. Donc on est dans une logique de réflexion. L'identification des bâtiments les plus exposés devra être réalisée, mais leur traitement devra être décidé au cas par cas avec, le cas échéant, des traitements pouvant être mis en place au-delà de la temporalité du PPA, donc au-delà de 2027. Donc c'est les maisons de retraite, les crèches et autres bâtiments. L'objectif sur la limitation de la croissance démographique doit être rappelé comme un objectif à atteindre et non une obligation. Des remarques par rapport à cette formulation ? Donc on est bien dans une logique de réflexion, de proposition, et puis peut-être à terme de prise de conscience. Il y aura un dispositif qui existera, on pourra s'y référer. Alors après, concrètement, je pense à une des propositions sur les chaudières à bois, performantes ou pas. Ben, ça va peut-être amener un jour une homologation des chaudières qui permettront d'avoir effectivement des chaudières plus efficientes quand on ne peut pas avoir autre chose qu'une chaudière à bois. On aura sans doute demain des normes, des homologations en référence au plan de protection de l'atmosphère. Parce qu'il y a les chaudières et puis il y a la qualité des bois qu'on utilise aussi. Il faut avoir une bonne chaudière, mais si ce sont des mauvais bois, c'est pas bien. Non mais, après, on déroule. D'autres remarques, d'autres questions avant de passer au vote ? Qui est contre le plan de protection de l'atmosphère 3, SELF ? J'aime bien SELF. Perspective. Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc on va considérer qu'il est adopté sous prise en compte des réserves qu'on a formulées, sachant que bon, c'était exactement pareil que pour la problématique de l'accueil des gens du voyage. La préfecture considère qu'il est adopté. Quant aux réserves, on verra plus tard. Le point 8, c'est celui de l'installation d'une supérette connectée Boxy. Pour pallier le manque de commerce de proximité sur son territoire, la commune souhaite installer une supérette connectée permettant aux utilisateurs de faire l'acquisition de produits du quotidien et de denrées alimentaires par le biais de son application Boxy. Donc là, bon, certains d'entre vous ont assisté à la présentation. C'est un conteneur de 15 mètres carrés qui contient donc des vitrines réfrigérées avec 250 produits de consommation courante qui peuvent évoluer d'ailleurs dans le temps et en fonction des événements. Dématérialisé, puisque vous adhérez à Boxy, vous avez un QR code qui vous est délivré. Pour pouvoir entrer dans la Boxy, vous faites vos courses, vous ressortez et quelques minutes après, vous recevez en dématérialisé votre ticket de caisse. Et s'il y a une erreur, vous avez 48 heures pour faire rectifier. Ça correspond pour nous à une forme de besoin, puisqu'on n'a pas de petit commerce en centre-bourg. Ça ne coûte rien, puisque quand ils arrivent, ils installent leur, leur container, ils s'occupent de tous les connexions et des raccordements et des contrats Enedis. Ils arrivent généralement le mardi et ils ouvrent le jeudi. C'est une convention donc, qui nous rend partenaires sur 3 ans. Il y a une contribution de leur part qui est de 1 000 euros forfaitaire et de 1 000 euros par tranche de 25 000 euros de chiffre d'affaires au-delà de 75 000 euros. Donc, si on, de toute façon, on aura toujours 1 000 euros. Puis, s'ils font un chiffre d'affaires de 100 000, ben, on aura 1 000 euros de plus. Bon, après, ça ne répond pas forcément aux besoins d'un commerce de proximité tel qu'on l'entendait avant, c'est vrai. Mais en termes de dépannage, puisque c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ça peut peut-être rendre service. On les avait interrogés sur leur certitude, en disant, est-ce que vous êtes certain que ça va être commercialement intéressant pour vous? Ils ont dit oui. Bon, la seule contrainte, souvenez-vous, pour ceux qui étaient là, c'est qu'il y a un livreur qui s'occupe de 5 Boxy, donc la plateforme est à Lyon. Donc la personne vient de Lyon tous les jours pour ajouter des produits ou retirer les produits périmés. Il faut qu'il y ait au moins 5 Boxy en service, sinon ils n'installent pas. Ça veut dire que si on dit oui, on aura peut-être une Boxy installée en 2023 s'il y a 3 ou 4 autres communes qui ont également dit oui. On avait discuté avec eux également, ils avaient une idée d'en installer une sur l'enceinte du CHU, mais je ne suis pas certain que ce soit quelque chose qui pourrait être opérationnel. Donc voilà. Ça serait plus du snacking, c'est-à-dire les produits, ça ne serait pas, par exemple, du camembert, du beurre, de la farine, mais plutôt des salades, des sandwichs, voilà. Ils s'adaptent également à leur zone de chalandise. Bon, dans la mesure où ça ne nous coûte rien, moi, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas essayer. Il y a une contrainte, vous l'avez entendu à cette époque-là, c'est que leur charte graphique fait que la Boxy est rouge, et rouge vif, hein. C'est pas... Donc Jacques Pellegrin a dit, est-ce qu'on peut éventuellement, pas la dissimuler, mais la décorer, hein, faire une petite halle. Non, j'aime pas le terme de halle, parce qu'après ça va devenir plus permanent, mais voilà, dans l'esprit, l'habiller, il nous a répondu que ça ne posait pas de problème. Voilà. Quant à l'emplacement, ils ont regardé un peu sur la commune quel serait l'emplacement le plus intéressant pour eux, parce qu'il faut qu'ils fassent, hein, je vous rappelle, pour soit rentable. Un panier moyen qui a entre 5 et 6 euros, c'est ça, je crois, et 70 clients jour. C'est la moyenne, hein, pour que ce soit rentable. Bon, après, moi, je ne sais pas. Quelqu'un qui veut faire des crêpes en rentrant, qui manque du lait ou de la farine, bon, ben, voilà. Donc, eux sont prêts à jouer le jeu. Nous, je pense qu'on va, moi, personnellement, j'y suis favorable. On va décider maintenant. Quant à l'emplacement, ben, ça serait sur la place. Alors, exactement où? Très concrètement, c'est soit sur la terre... la terre battue dans la continuité du marché, soit de l'autre côté, côté parking, donc ça neutraliserait 2 places de parking. Bon. L'intérêt, c'est que côté terre battue, on peut légèrement l'enterrer. Parce que si on est sur du dur, il faut qu'il y ait une rampe d'accès et ça occupe 15 mètres carrés de plus. Voilà. Donc beaucoup d'entre vous ont rencontré le commercial. Bon. Moi, j'attends maintenant vos remarques avant de prendre une décision. Répellini.
Ce qui me fait peur un peu, c'est sur la commune, les gens qui ont pas, qui peuvent pas aller faire les courses, c'est les personnes âgées, souvent, hein, ou qui sont seules. Est-ce que cette façon de payer, ça ne va pas être trop compliqué pour eux?
Bien évidemment. Non, bien sûr que oui. Oui. Mais ce n'est pas un commerce de détail destiné aux personnes âgées. C'est comme la problématique qu'on avait évoquée quelque temps sur la disparition du bureau de poste. Le plus tragique, ça sera pour les personnes âgées.
Ah, oui.
Bon. Là, c'est du dépannage. C'est plutôt la personne qui rentre du travail, qui a oublié d'acheter 2 ou 3 articles, qui s'y arrête et qui prend de quoi manger pour le soir. C'est ça, en fait. C'est du dépannage. Quand tu as un panier moyen qui est à 5 ou 6 euros, c'est rien du tout. C'est pas, j'y vais faire mes courses régulièrement, il y a des légumes frais, il y a des fruits frais, c'est pas ça. En plus, c'est du conditionnement de grande surface. Donc, ça cible une autre population. Alors, après, la personne âgée, elle pourra toujours demander à quelqu'un qui a un QR code Boxy d'aller lui acheter, je sais pas moi, un bidon d'huile ou un bidon de lait ou je ne sais trop. pour se dépanner, mais c'est tout. Mais le but, ce n'est pas de substituer un commerce de proximité, puisqu'on n'arrive pas à en trouver. Mais oui, effectivement. À partir du moment où ça devient dématérialisé, hein, on l'a vu pendant le Covid, les personnes âgées qui allaient à la poste tous les mois chercher leurs 200 euros et qui se sont trouvées avec un bureau de poste fermé, elles étaient complètement dans la panade, bien sûr.
Le commercial nous disait aussi qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui ont réussi à utiliser tous anti-Covid. Je veux dire, ce n'est pas très compliqué. S'ils se font expliquer par leurs enfants ou leurs petits-enfants, voilà, l'utilisation elle est très, très simple. Hein. Il y a un QR code, ils le plaquent sur la machine. Après, effectivement, il y en a qui seront réticents, toujours. Mais on ne peut pas, plaisir, enfin, rendre service à tout le monde.
Oui, moi je suis bien sûr très favorable hein, à cette Booksy. Là où je m'interroge, c'est sur l'emplacement. Moi, je ne suis pas convaincu que cet emplacement soit le plus pertinent, parce que c'est quand même sur la place vers l'église ou sur la place en mobilisant des places de parking. En plus, si l'argument c'est de dire que c'est parce que c'est l'alignement du marché, je veux dire les 2 heures de marché du vendredi, et qui n'est pas non plus un marché ultra fréquenté, je ne sais pas si c'est un bon argument. Personnellement, je réfléchirais plutôt à un emplacement face à l'école Jules Ferry, là-bas, vers la petite maison à côté de là où il y avait Sandra Collot avant, hein, qui nous appartient. Et qui n'empiéterait pas du tout sur l'espace public utilisé actuellement. Alors, ce qu'on va me rétorquer, c'est que quand il y aura les travaux du centre-bourg, il faudra la déplacer. Je ne voudrais pas être pessimiste, mais on peut quand même raisonnablement penser que ces travaux ne débuteront pas avant les 3 années du contrat, les 3 premières années du contrat. Si dans 3 ans, la Booksy est vraiment rentable, il nous a quand même dit qu'eux prenaient en charge aussi éventuellement les déplacements. Si la Booksy est rentable, ça ne les gênera pas de la déplacer de là à là, à un autre endroit éventuellement qu'on pourrait définir. Si elle n'est pas rentable, eh bien de toute façon, au bout de 3 ans, elle va être emballée. Donc je ne pense pas que les futurs travaux puissent beaucoup empiéter, et je pense que ça ferait moins verru que sur cette place, de cet emplacement. Et en plus, je demeure convaincu qu'il serait beaucoup plus visible par beaucoup plus de personnes.
Alors, ils ont fait le tour de la commune, donc ils savent exactement, parce qu'ils ont l'habitude quand même d'en installer, où, pour eux, c'est préférable. Je ne suis pas d'accord avec toi, parce que ce parking là-bas, quand tu dis il faut voir aux heures de l'école, il est blindé. Donc si on supprime 4 ou 5 places, ça va poser des problèmes. Ah oui, alors là, on ne le voit plus. Ben si, maintenant, tu le dissimules. Tu le rentres. Eux, il faut de la visibilité. Il y a une charte graphique pour qu'on la voit de loin. Ils ne vont pas partout où ils les installent. C'est du visuel. Tu sors d'une gare, ils sont en plein milieu du parvis de la gare. Là, si on commence à la mettre dans un petit coin, etc., d'abord, ils accepteront peut-être pas. Dire dans ces conditions, on n'y va pas, parce que d'un point de vue strictement commercial, il faut que ce soit effectivement visible. Je suis d'accord avec toi. Ça va faire une verrue. C'est pour ça que Jacques disait, on l'habillera. Mais après... Ils ont fait le tour, hein. Donc ils savent où, selon eux, ça serait le mieux pour eux. Après, moi, je n'ai pas d'idée. Mais aller le mettre sur le terrain de cette petite maison qui est vraiment très encastrée, je ne sais pas.
De toute façon, la problématique, elle est totalement différente d'un hall de gare, d'une gare. Elle est 100% différente. De toute manière, ce sont toujours les mêmes personnes qui viennent au centre de Saint-Prié. Une fois que c'est repéré, c'est repéré. Que ce soit un endroit ou un autre, je ne pense pas que ce soit fondamental.
Moi, je n'ai pas une idée précise, parce qu'on pouvait aussi le mettre là, sur la place du Centenaire ou autre. Ils ont fait une étude, ils ont dit, nous, ce qu'on souhaite, c'est que ce soit à cet endroit, sur la place. Devant ou derrière les bambous, après, c'est à nous de décider. C'est un petit peu une clause, parce que là, c'est presque défini dans la convention. Moi, je ne vais pas m'amuser à dire là-bas, peut-être que ça sera mieux. En plus, tu as compris que les gens qui veulent aller sur leur Booksy, savoir s'il y a bien encore un paquet de farine dans le Booksy, ils vont l'avoir sur leur application, etc. Donc, ils n'auront pas de problème pour aller chercher. C'est pas les mamans ou les nounous qui vont faire les courses à la sortie de l'école qui vont forcément aller faire des courses à la boxy. C'est pas ce, à mon avis, c'est pas ce profil-là qui est ciblé. Eh ben, repérer dans un coin ou repérer au milieu de la place, c'est plus facile de le repérer au milieu de la place, c'est évident. Ah bah tiens, quand même. Ben si. On ne fait pas le marché de Noël là-bas derrière, on ne fait pas le marché le vendredi là-bas derrière, on le met au milieu de la place. Hubert,
moi je suis pour cette boxie, mais bon, si on la place à côté de l'église, je me mets à la place de jeunes mariés, ou sur leur, si on prend des photos et qu'on voit la boxie à côté, ça va faire sympa sur la photo de mariage. Donc je pense qu'il faudra un peu la décaler. Parce que si on regarde la configuration à l'heure actuelle, derrière, si on la met derrière contre l'église, elle sera un peu cachée. Mais il faut, si on la met devant façade, je ne sais pas où on va la mettre.
Rémi Mounier, de toute façon, il est évident que c'est des commerciaux qui veulent le meilleur emplacement. Donc là-dessus, forcément qu'ils ont visé à côté de l'église ou sur le parking derrière la place de l'église. Donc on fera le 14 juillet avec la boxie au milieu des danseurs, ça ne sera pas trop un problème. Et s'il manque du lait pour les crêpes, on pourra aller la chercher. Non, moi, la population qui est visée, c'est une population qui est de passage, on l'a dit, qui veut vite aller à la boxie et en repartir. Donc il faut un parking à proximité pour pouvoir se garer et repartir par rapport à leur positionnement. Et c'est là où je rejoins les quelques réflexions. Je ne suis pas sûr que derrière l'église, ça soit le parking le plus disponible. Encore une fois, et après ceux qui ont eu la visibilité sur la boxie, qu'elle soit ici sur la place du centenaire ou derrière l'église ou devant l'école, une fois qu'on l'a vu une fois, on sait où elle est. Donc, et puis comme ils sont connectés, de toute façon, où trouver ma boxie, je suis sûr que l'application elle vous guide et elle prend même la main sur le GPS de la voiture. Donc je pense pas que ça soit vraiment un problème d'emplacement. Après, eux ont ciblé leur emplacement. Maintenant, à nous de décider si on veut sur la place avec les manifestations que l'on fait l'intégrer au milieu de ces manifestations là parce que le sujet il sera là quand on fera carnaval si c'est sur la terre battue à côté de l'église il y aura la boxie à côté quand il y aura le marché il y aura la boxie à côté et si c'est sur la place derrière et ben ça sera quand on fera le marché de Noël ou le 14 juillet voilà c'est tout.
Une petite question s'il vous plaît Christophe Talia. Est-ce que ce n'est pas un peu un aveu d'échec d'autoriser ce type de produit plutôt qu'un commerce pour une commune comme la nôtre ?
Pas un aveu d'échec, c'est un constat. On a perdu les commerces en centre-bourg. Il y a eu pendant 6 ans un espace commercial de 600 mètres carrés, là, dans les nouveaux bâtiments. Lors du dernier mandat, on a cherché désespérément des commerces, donc on a vu Carrefour, Auchan, Casino. À chaque fois, ils ont dit c'est super, on y va, il faut trouver le gérant ou le franchisé qui va investir. Conclusion, aujourd'hui, il y a un laboratoire maxillofacial. Voilà. C'est tout. Et un opticien. Il n'y a personne qui viendra investir, parce qu'un commerçant, en particulier alimentaire, lui fait son calcul. Il investit, il lui faut sa rentabilité. Et pourquoi le petit casino a disparu ? Parce que tous, on y allait pour se dépanner. On n'y allait pas faire nos courses. On allait à Casino, on allait à Leclerc, mais là, on y allait pour chercher ce qui nous manquait. C'est la réponse de Boxy. Il vous manque un paquet de farine, vous allez l'avoir dans la Boxy. Et vous n'allez pas aller faire vos courses une fois par semaine à la Boxy. Donc, c'est le constat qu'effectivement, le centre-bourg, dans sa configuration, avec tout le tissu commercial qui est autour de notre commune, que ce soit Bois-Monzil, Leclerc ou Ratarieux, il n'y a plus rien en centre-bourg. Et inévitablement. Et il n'y a pas de commerce aujourd'hui qui est prêt à tenter le coup. Quoi. Si on avait, nous, un commerçant qui dise, moi j'avais dit, pourquoi pas un boucher ou un traiteur qui fait les marchés, il a son labo et puis il ouvre de 15h à 20h le soir ou des choses comme ça, mais on n'a pas trouvé. Et on a prospecté, enfin tous les élus qui étaient là sur l'ancien mandat, on a cherché, on a trouvé, on n'a pas trouvé. Oui, mais lui c'est pareil. Lui, il marchait, il vivotait. Le jour où il est parti, ils ont rasé, puis c'est fini. Il n'y a pas un boucher aujourd'hui qui accepterait de travailler avec autant d'incertitude par rapport à une clientèle. Ce n'est pas les trois mamies qui vont acheter un petit beefsteak ou deux tranches de jambon tous les jours qui vont tourner une boutique. C'est ça le problème. Là où on est, la partie, en fait, le centre-bourg aujourd'hui, c'est devenu un petit côté, un petit peu dortoir. Hein. Les commerces, ils sont ailleurs, ils sont autour. Alors, ce n'est pas un aveu, c'est vraiment un constat de, des habitudes de consommation. Et... Bien sûr. Hugo.
Hugo Rodriguez Souza. Alors, moi, j'ai une... enfin, on s'est posé une question, donc je me permets de la poser pour, devant tout le monde. C'est quelle est la cible, finalement? C'est toute personne, une tranche d'âge
C'est tout le monde, mais alors, eux, c'est plutôt des jeunes actifs. C'est plutôt ça, des jeunes actifs, des couples qui ont des enfants, des choses comme ça. Ce n'est pas les personnes âgées, c'est sûr. Ce n'est pas les plus jeunes. C'est vraiment, c'est du commerce de dépannage. C'est le petit épicier à Paris ou autre qui est ouvert jusqu'à 22 heures et où, qui on va en catastrophe parce que, par exemple, il n'y a pas d'alcool dans les produits qu'il propose. Bon, il n'y aura pas de jeunes qui viendront pour acheter des bières ou du whisky ou de la vodka. Donc, c'est vraiment du dépannage alimentaire. Et donc, ils ont ciblé 250 produits. Si, par exemple, tu veux un camembert, tu n'auras pas 3 ou 4 marques de camembert. Tu auras un camembert. Tu auras une marque de camembert et c'est tout. Pareil pour le beurre, pareil pour la farine, etc. Pour pouvoir diversifier l'offre. Et c'est vraiment... Alors, c'est parti des grands centres urbains. Hein. Ça s'est créé en région parisienne. Ça vient sur Lyon. Là, ils essaient d'irriguer. Tiens, il n'y a pas de commerce. On y va. C'est du dépannage. Comme quand ils disaient, on va essayer d'en mettre un peut-être sur le CHU, la fac de médecine, qu'est-ce que vous mettez dedans? Des sandwichs, des salades, des bars, des boissons énergisantes, des choses comme ça. Ils s'adaptent alors, à la clientèle et, locale. Quoi.
Après, du coup, moi, mais alors c'est très personnel comme réflexion, mais ce n'est pas un dispositif qui m'attirerait dans le sens où, Ratarieux, ses horaires d'ouverture sont considérablement allongés. Là, on vient de regarder, samedi, ça ferme à 22h. Il y a aussi, il me semble, à la terrasse, le petit casino, ça s'appelle peut-être plus comme ça, qui ouvre aussi beaucoup.
Il faut que tu prennes ta voiture pour y aller.
Ouais, mais c'est après, j'ai un choix. Je pense que les prix, après, j'ai aucune idée. Hein, c'est une image que je me fais, sont peut-être plus accessibles et surtout au moins, et c'est peut-être lié à mes modes de consommation, à l'utilisation, mais au moins c'est de l'instantané.
Oui, non, je suis d'accord. Mais les gens qui font du click and collect, c'est nouveau ça. Ils commandent sur Internet, ils s'arrêtent, ils prennent dans le coffre. Bon, non, mais c'est pas la même chose, je suis bien d'accord. Mais c'est un autre mode de consommation. Donc là, c'est pas du tout pour dire, entre cette boxe-ci, il y a Ratarieux qui est ouvert, il y a Leclerc qui est ouvert, etc., ou même Boismonzil, peu importe. C'est pas la même approche. Ça fonctionne exactement comme fonctionnait le petit casino avant. Il manque quelque chose. Alors là, l'avantage, c'est que c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Tu reçois des amis, il est 22h, j'ai plus de chips, j'ai plus de coca ou truc comme ça, hop, j'y vais. Il n'y aura plus de chips, parce que bientôt ça va augmenter. Mais... Non, mais c'est vraiment ce profil-là. Et là où c'est à proximité des grands centres, je dirais urbains, et des entreprises. Donc les personnes qui sortent du boulot tard, disent, ah, ben, tiens, il me faut ça pour ce soir, ils le prennent en passant, etc. C'est vraiment une logique de dépannage. Ce qu'il faut retenir, c'est le panier moyen. Entre 5 et 6 euros, c'est rien du tout. C'est pas la personne qui va faire ses courses, c'est pas ça du tout.
Ça peut être aussi une maman qui sort de Jules Ferry et qui a plus de gâteau, ou le gamin il a envie de ce type de gâteau-là. Enfin, ça peut être, voilà, c'est vraiment, oui, effectivement. Il disait que le temps de passage dans la boxe, c'est 1 minute 30. Donc c'est vraiment pour choper deux trucs qu'on a oubliés et dont on a besoin à l'instant T, quoi.
Surtout dans l'application. Tu cherches un produit, alors je prends toujours l'exemple de la farine. Tu vas regarder si à la boxe à Saint-Priest-en-Jarret, il y a bien encore de la farine. En fonction de l'état du stock, s'il n'y a pas de farine, tu ne vas pas. Ou de la moutarde. Lise.
Au niveau du... Donc, Lise Lafont, je reviens sur le panier moyen. Donc, tu disais 7 euros par personne. Il avait compté 50 à 60 clients jour pour être rentable. On soulevait la question aussi avec Corinne de dire est-ce que les gens qui sont en bas de Saint-Priest vont monter à la boxe? Non, donc on s'adresse vraiment aux gens du centre-bourg. 50 à 60 personnes jour. Je rejoins aussi Hugo sur le fait que moi, ce n'est pas du tout quelque chose sur lequel je m'orienterais puisque j'ai plus l'habitude de bouger sur le casino de Bergson 24-24, 7 sur 7, qui est l'habitude de consommation si en pleine nuit... avec des amis, on se dit qu'il nous faut des chips, parce qu'on aura le choix sans doute entre 4 ou 5 paquets de chips, alors que là, on aura sans doute
une sorte de chips. Et je rejoins aussi sur le fait que c'est peut-être pas ce qu'on attend aussi des aménagements urbains actuels en termes de visuel, d'avoir une boîte au milieu de, du centre-bourg. Quand je vois le beau projet Epora qui se profile, ça, je reste très sceptique quant à la rentabilité de cette boîte et l'utilité réelle, puisque les personnes âgées vont être aussi limitées dans cette utilisation.
J'en reviens à ma remarque de tout à l'heure. Les gens ne monteront pas, sauf ceux qui amèneront leurs enfants à Jules Ferry. Puisque maintenant, si l'école Jean Massé disparaît... Oui.
Bon, alors, déjà, c'est pas fait pour les personnes âgées, mais il n'y a pas que les personnes âgées en centre-bourg. Ensuite, les situations que vous évoquez, c'est je prends ma voiture, je vais à Bergson. C'est pas ça. C'est vraiment du dépannage local. Alors là, on dit, oui, alors ça sera pas joli, c'est pas mon mode de consommation, c'est pas là que j'achète. Il faut voir aussi les habitants du centre-bourg qui nous disent, mais il n'y a rien pour se dépanner. Il n'y a rien pour se dépanner. Regardez pourquoi le pizzaiolo, il marche si bien. Il marche bien parce qu'il n'y avait pas d'autres modes de restauration rapide sur le centre-bourg. Voilà, donc là, il y a une attente de la part d'une certaine partie de notre population. Alors, les personnes les plus âgées, elles ne seront pas forcément en phase avec ce mode d'accès et d'achat. Après, toutes les autres personnes, moi le premier, ça m'étonnerait que j'y aille. Peut-être en sortant d'ici un jour, si mon épouse me dit, dis donc, tu sors de la mairie, il me manque ça, bon, je m'arrête et je le prends. Mais ce n'est pas notre mode de consommation. Mais il y a des personnes qui nous disent régulièrement, il n'y a plus rien pour acheter des produits de dépannage sur le centre-bourg. Il y a aussi des produits ménagers ou des choses comme ça. Donc, on peut effectivement dire, c'est pas joli, ça correspond pas au mode de consommation. Je parlais du click and collect volontairement. Les gens, maintenant, de leur bureau, ils commandent, ils s'arrêtent en passant avant de rentrer, ils ont leurs courses dans le sac. Bon, là aussi, les papis, les mamies, c'est pas comme ça qu'ils vont consommer. Mais le petit commerçant d'alimentation tel qu'on l'a connu, faut pas se faire d'illusions. On n'en aura plus sur le centre-bourg, ça c'est certain. Regardez les petites supérettes qui fonctionnent comme le petit casino à l'Etra. Comme disait Lise, il fonctionne en 24-24 avec la carte bancaire. Il est en train de prendre un bid considérable. Bien sûr, bien sûr. Parce que les gens n'ont pas cette habitude, il faut faire d'abord enregistrer sa carte bancaire. Pour ressortir, c'est compliqué ou des choses comme ça. Bon, après, c'est du dépannage. Donc là, après, nous, l'attitude qu'on a eue, c'est de dire, ça ne nous coûte rien, pourquoi pas essayer? On ne va pas satisfaire tout le monde, mais de toute façon, on s'engage sur 3 ans. De toute façon, ce n'est pas compliqué. Si ça ne marche pas, c'est eux qui diront, on arrête. L'objectif pour eux, c'est un chiffre d'affaires de 100 000 euros par an, minimum. 100 000 euros. Ils l'ont étudié. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, ils s'arrêtent. Ils ne sont pas fous. Bon, après, ils vont peut-être aller voir dans d'autres communes où il faut en mettre. Donc nous, on ne prenait pas de risque. Moi, je me disais, c'est peut-être quelque part une forme de réponse par rapport aux attentes d'une partie de la population, bien évidemment. Après, il y a d'autres personnes qui nous disent, mais moi, je me satisfais pleinement du petit marché du vendredi maintenant. J'achète mes légumes pour la semaine. Très bien, très bien. Mais la personne qui rentre chez elle à 20h le soir, le petit marché, il n'est pas là. Oui. Non, mais bon. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on va passer par... Ben, on va passer au vote, hein, après tout. Donc, la convention, elle dit, on s'engage avec Boxy pour 3 ans, pour un emplacement qui sera central. Alors après, moi, je ne me fais pas d'illusion. Si on leur dit, vous allez vous enterrer là-bas, derrière le parking Jules Ferry, ils vont nous dire non. Mais bon, parce qu'ils sont commerçants, parce qu'il faut qu'ils soient exposés, qu'on les voit et de loin. Alors après... Eh ben, tu verras avec eux si tu veux, mais bon, c'est leur boulot aussi, hein. Moi, je pense pas, mais bon, c'est un autre point de vue. Après, si c'est sur la place, effectivement, mais alors on me dit oui, mais quand même, là, ici, il y a des mariages et tout. Et quand on va raser tout le bloc, tout l'îlot, là, ça va être une friche. Les mariés, il ne faut pas faire d'illusions, il n'y en a pas beaucoup qui font des photos sur la place. Hein. Ils vont dans le parc. Ils vont dans le parc. Bon. Et en plus, bon, après, moi, je sais pas, mais. Mais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Pour nous, on est sollicité, c'est de dire, ça ne nous coûte rien, on peut voir, on s'engage sur 3 ans. Il y a 2 solutions. Ou ça marche, ils nous disent, mais c'est très bien, parfait. Ou ça ne marche pas, ils ne vont pas attendre 3 ans pour dire, on s'est trompé, on va partir. faut pas se faire d'illusions. Donc voilà, après, qu'elle soit rouge, qu'elle soit qu'on la dissimule, qu'on la mette plutôt à gauche, plutôt à droite, on verra avec l'emplacement précis. Donc on va mettre au vote, si vous voulez bien. Donc pour la convention Boxy, d'un conteneur supermarché de dépannage en centre-bourg, qui est contre ? Deux. Donc Michel Baudry et Rémi Mounier. Qui s'abstient ? Corinne Mourgue, Lise Lafon, Hugo Dassouza, Christine Gueuzins, Raymond Repellini. Et c'est tout. Donc, la décision. C'est bon ? 6 avec Raymond. J'abstiens, Raymond. Oui. Comment ? 5. 5. Donc, qui est pour ? Ben, les autres, évidemment. Mais pouvoir, oui. Jacques était pour, Marie-Jeanne était pour, Michel était pour. Donc la décision est adoptée à la majorité. On vous reviendra vers vous pour vous dire exactement où il s'installe. Et je vous le rappelle, s'il n'y a pas au moins 5 boxy sur le périmètre Saint-Étienne-Nord, ils ne s'installeront pas. Quand je dis Saint-Étienne-Nord, il peut y en avoir deux, une à Bergson, une à la Terrasse, après, c'est eux qui verront, quoi. Comment ? Ouais.
Il y a des gens qui rentraient acheter une baguette et qui ressortaient. Mais dans un cas comme ça, il ne faut pas faire ça. Moi, je sais que quand je me dépannais, bon, j'avais besoin d'un truc, et je prenais un paquet de biscuits, 3 yaourts, 3 trucs. Il fallait les faire travailler. Parce que si tu prends que du dépannage, je te dis, le coût de la baguette, les jours de fermeture, tu prenais ta baguette, tu prenais autre chose.
D'évolution de ce dossier. Donc le point suivant. Le point 9, c'est celui-là. La commune est propriétaire de la parcelle H228 située au Cret d'une superficie de 10 448 m² classée N au PLU. Cette parcelle, qui n'a pas la qualité d'un terrain à bâtir, n'est ni affectée à l'usage direct du public, ni affectée à un service public et fait ainsi partie du domaine privé de la commune. Monsieur et Madame Garon, riverains de ce terrain, ont construit une véranda en limite de la parcelle communale, parcelle qui est également devenue pour eux, au fil du temps, un terrain d'agrément. Afin de régulariser leur situation foncière, Monsieur et Madame Garon ont donc souhaité acheter une partie de la parcelle AH228, environ 700 m², donc vous avez le plan qui est joint, pour un montant de 35 000 euros, soit 50 euros le mètre carré. Pour information et selon l'avis des domaines, en date du 25 mai 2022, la valeur vénale de cette emprise est estimée à 47 euros le mètre carré minimum. D'un point de vue juridique et par définition, la vente n'est pas un achat public et en ce sens, elle échappe au dispositif applicable à la commande publique. Une collectivité territoriale n'a donc pas l'obligation de soumettre la vente de ses biens, mobiliers et immobiliers, à publicité et mise en concurrence. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver la cession d'une partie de la parcelle AH228, soit environ 700 m², pour un montant de 35 000 euros, et de m'autoriser à signer toutes les pièces et tous les documents nécessaires. Les frais d'acte et de géomètre sont à la charge de l'acquéreur. Des questions par rapport à cette situation ? Donc c'est Jacques Pellegrin qui vous en avait parlé. Donc il avait recensé quelques situations sur le terrain communal, en particulier dans le secteur du Cré. Il a rencontré les propriétaires qui ont donner leur accord pour, acquérir la partie du domaine public qui était mitoyenne à leur terrain. Hubert Blanchard.
Une question. Quand j'ai fait poser ma véranda il y a une quinzaine d'années sur mon terrain,
j'ai eu tout un tas de... On m'a demandé tout un tas de plans, de plans avant, devant, après. La DRIR s'est même déplacée pour mesurer. Et je m'aperçois que ces personnes-là, j'ai rien contre, ont posé leur véranda peut-être sans, en demandant rien à personne. Et puis, bon, ça s'est passé comme ça. Moi, je ne comprends pas pourquoi moi, j'ai été contrôlé chez moi. Eux, ils font ce qu'ils veulent sur un domaine communal.
Alors, ben, je vais te faire une réponse. C'est que c'est histoire. C'était dans le passé que ça s'est fait. Ça ne s'est pas fait il y a 10 ans ou 15 ans, compte tenu des procédures qui étaient en place et auxquelles tu étais confronté. C'est beaucoup plus vieux. Ça s'est fait comme ça.
Et je trouve autre chose que vendre 700 mètres carrés, 35 000 euros... Vous achetez un terrain sur Saint-Prix, 700 mètres carrés, vous allez pour 100
000 euros. Non, attends. Là, on a déjà une estimation des domaines qui nous fixe un seuil en dessous duquel on ne peut pas vendre. Ensuite, c'est du terrain au craie qui n'est pas du tout constructible. Il faut voir où c'est. C'est simplement une continuité avant les rochers et les broussailles. Ce n'est pas un terrain où tu peux construire une belle villa, premièrement. Et deuxièmement... ces personnes-là n'acquièrent pas ces parcelles pour construire, c'est simplement pour régulariser une situation existante. On verra que la deuxième décision, c'était une piscine. Là, c'est une véranda. L'autre, c'est une piscine. Donc, c'est simplement un constat qui a été fait il y a très longtemps. On a évoqué aussi, souvenez-vous, l'histoire sur en bas de la table d'orientation. Là aussi, une situation à peu près similaire. Bon, ben, Jacques, il va voir les propriétaires. Il dit maintenant, vous régularisez. On définit les conditions financières. Nous, de toute façon, on ne définit pas le montant. Ça nous est imposé par les domaines et on se met d'accord. Mais au moins, on aura des situations qui seront régularisées, y compris au niveau du cadastre. C'est tout. D'autres questions ? Donc, qui est contre cette cession ? Qui s'abstient ? Donc, qui est pour ? Et la cession est validée à l'unanimité. Je vous en remercie. Donc, le point numéro 10. Voilà. C'est exactement la continuité de la première délibération. Donc, la commune est propriétaire de la parcelle AH228 située au craie d'une superficie de 10 448 m² classée N au PLU. Cette parcelle, qui n'a pas la qualité de terrain à bâtir, n'est ni affectée à l'usage direct du public, ni affecté à un service public et fait ainsi partie du domaine privé de la commune. Monsieur et Madame Chassin, riverains de ce terrain, ont construit une piscine dont une partie est située sur la parcelle communale, parcelle qui est également devenue pour eux au fil du temps un terrain d'agrément. Afin de régulariser leur situation foncière, Monsieur et Madame Chassin ont donc souhaité acheter une partie de la parcelle AH228, soit environ 1200 m², donc vous avez eu le plan, pour un montant total de 60 000 euros, soit 50 euros le mètre carré. Pour information, comme le cas précédent, selon l'avis des domaines, en date du 25 mai 2022, la valeur vénale de cette emprise est estimée à 47 euros le mètre carré. D'un point de vue juridique et par définition, la vente n'est pas un achat public et en ce sens, elle échappe au dispositif applicable à la commande publique. Une collectivité territoriale n'a donc pas l'obligation de soumettre la vente de ses biens mobiliers et immobiliers à publicité et mise en concurrence. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver la cession d'une partie de la parcelle AH228, soit environ 1200 m² pour un montant de 60 000 euros, de m'autoriser à signer toutes les pièces et tous les documents nécessaires. Les frais d'acte et de géomètre sont à la charge de l'acquéreur. Des questions ? C'est la continuité. C'est deux maisons qui étaient mitoyennes et puis le terrain qui était juste derrière. Au pied de l'enrochement du crâne. Qui est contre cette cession ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc la cession est validée à l'unanimité. Je vous en remercie. Le point 11, je vais pouvoir me reposer un peu. Je passe la parole à Christine Gezins pour les tarifs de l'École municipale des arts.
Oui, bonsoir. Par délibération en date du 28 juin 2021, le conseil municipal a fixé les tarifs de l'École municipale des arts appliqués à la rentrée 21-22. Il convient aujourd'hui de procéder à la réactualisation des tarifs de l'École municipale des arts à appliquer à la rentrée scolaire 2022-2023. Donc les tarifs ont été augmentés de 5% par rapport à l'an passé et arrondis à l'euro supérieur. Donc, nous distinguons les deux tarifs. Il y a le tarif élèves résidents. C'est les élèves qui sont domiciliés sur la commune, ainsi que les enfants du personnel municipal et les élèves extérieurs à la commune, mais qui sont inscrits à l'harmonie municipale. Et le deuxième tarif correspond donc au tarif extérieur. Donc, je voulais juste vous donner les chiffres des inscriptions pour, de fin d'année, en fait, qui viennent de se terminer. Donc, il y a eu 273 inscrits, 164 élèves qui sont inscrits en musique, 82 en danse jazz, 14 en hip-hop, 17 en théâtre et 17 élèves en dessin-peinture. Donc, il y a certains élèves qui font plusieurs activités, qui peuvent faire, enfin, qui mélangent les activités, voilà. Donc, on vous demande d'approuver ce tarif, ces tarifs qui seront appliqués à la rentrée prochaine.
Des questions par rapport à cette actualisation? 5%. Alors bon, ça peut paraître un pourcentage important, mais c'est à chaque fois quelques euros. On aura la même problématique pour les cantines et périscolaires. Donc, qui est contre l'actualisation des tarifs de l'école municipale des arts? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, ils sont validés à l'unanimité. On vous en remercie. Le point suivant, c'est le... Alors, je regarde. Subvention au cercle prolétaire.
Bonsoir, Rémi Mounier. Donc, subvention aux associations. Monsieur le maire expose. Lors du conseil municipal du 14 avril dernier, vous avez approuvé le versement des subventions aux associations pour l'année 2022. Le vote de la subvention concernant le cercle prolétaire avait été reporté. En effet, on avait demandé à l'époque à l'association de produire un bilan financier que l'on n'avait pas eu au moment de la délibération. Depuis, nous avons reçu ce bilan financier, nous l'avons étudié et nous avons reçu les responsables du cercle prolétaire et qui nous permet aujourd'hui de valider une subvention de fonctionnement de 1 000 euros. La subvention exceptionnelle qu'ils nous avaient demandée de 2500 euros n'étant plus nécessaire. Cette subvention exceptionnelle, à l'époque, venait combler un creux de trésorerie qu'ils avaient, qui était lié à un retard dans les règlements des indemnités URSSAF pour la gérante et les indemnités qui n'avaient pas été versées. On a pu régulariser la situation, d'ailleurs, à l'aide de Pierrick Courbon. Les indemnités ont été versées. Donc, il n'y avait plus lieu de venir combler ce creux de trésorerie. Donc, je vous demande d'approuver cette subvention de 1 000 euros.
Donc, en fait, quand on vous avait présenté les subventions, on avait déjà acté ces 1 000 euros, qui étaient en fait une subvention annuelle de fonctionnement. Mais on avait voulu effectivement s'interroger sur l'ensemble de leur situation. Maintenant, la situation est régularisée. Effectivement, ils avaient un gros déficit hein, de remboursement. Ils sont assez satisfaits apparemment de la reprise des activités en mai et juin. Donc voilà, donc on vous propose simplement de valider la subvention de fonctionnement de 1 000 euros.
6.
Qui est celle que, reconduite d'une année sur l'autre. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour la subvention? Donc elle est accordée à l'unanimité. Merci. Rémi, tu continues.
La délibération suivante concerne donc l'école du sport. Le maire expose, dans le cadre de sa politique en faveur de la jeunesse et des sports, la commune met en place dès la rentrée 2022-2023 l'école du sport. Chacun sait combien une activité sportive est bénéfique pour l'équilibre de l'enfant, pour son développement et pour sa construction personnelle. Le sport contribue au bien-être de l'enfant. Grâce au sport, il découvre de nouveaux horizons en dehors de la vie scolaire, de nouvelles règles de jeu, mais aussi la vie en collectivité. L'apprentissage du respect de soi et des autres est très présent dans la pratique sportive, qu'elle soit collective ou individuelle. Cependant, le choix du sport reste souvent un casse-tête pour les parents et les enfants. Les enfants ne savent pas vers quelle discipline s'orienter. Le choix de l'activité adaptée aux goûts et aux attentes de l'enfant s'avère souvent compliqué. Et de nombreux enfants souhaitent pratiquer plusieurs sports avant de trouver celui qui leur convient. Devant ces constats, la commune de Saint-Priest-en-Jarret a décidé de mettre en place, à compter de la rentrée de septembre 2022, en partenariat avec les associations sportives de la commune, une école du sport afin de faire découvrir la pratique sportive aux enfants, afin qu'ils s'orientent ensuite vers une discipline qui leur correspond. Les objectifs sont vraiment de faire découvrir aux enfants un maximum d'activités sportives pour qu'ils puissent choisir plus facilement un sport. leur donner goût à l'envie de continuer de faire du sport en prenant le plaisir à la pratique, les sensibiliser aux notions qui régissent le bon fonctionnement d'un groupe et développer leurs capacités motrices. L'enfant pratiquera de nombreuses activités sportives. Je vous exposerai tout à l'heure le programme qui est prévu pour la rentrée. Nous ne sommes pas dans une logique d'entraînement, mais de découverte et d'initiation à travers cette école du sport. Nos séances sont souvent construites sous la forme de situations jouées pour que les enfants prennent du plaisir à participer dans une ambiance entraînante. L'idée est de se situer entre le sport club, sport compétition club, et l'initiation scolaire. Le fonctionnement, donc les activités se dérouleront les mercredis matin de 9h30 à 11h45. L'accueil se déroulera sur le lieu de l'activité à 9h30. L'enfant pratiquera généralement une activité sportive à chaque cycle. Donc j'ai le détail. Donc sur le premier cycle qui irait du mercredi 7 septembre au mercredi 19 octobre 2022, l'activité pratiquée sera le karaté au gymnase côtier. Du mercredi 9 novembre au mercredi 14 décembre, l'activité pratiquée sera le tennis de table à l'espace loisir à la Bargette. Du mercredi 4 janvier au mercredi 1er février, on pratiquera la sarbacane au gymnase Claudius Cottier. Du mercredi 22 février au mercredi 5 avril, ça sera le basket au gymnase. Et du mercredi 26 avril au mercredi 5 juillet, ça sera le tennis au tennis club de la Bargette. Les programmes seront modulés en fonction des tranches d'âge. Deux groupes de 12 enfants maximum seront constitués. Donc on l'a dit, les lieux, c'est le gymnase côtier, l'espace loisir et le tennis club. Et les inscriptions pour participer à l'école du sport, les inscriptions donc ont commencé et elles se font à la MDA et l'inscription est pour toute l'année. Le tarif pour l'école du sport, 120€ par an pour les habitants de la commune et 150€ par an pour les extérieurs de la commune en fonction des places disponibles. Vous avez des questions sur l'école du sport ?
Sachant qu'on n'a pas à voter hein, cette délibération, c'est neuf, si.
Bon. Moi, je voulais dire que c'est une super idée, mais je crois qu'on l'avait déjà dit. Non, je le redis. Corinne Monk, c'est une excellente idée. Ouais, c'est top cette approche. Alors, si je comprends bien, par contre, je n'avais pas du tout sûrement écouté la dernière fois. c'est les clubs qui vont s'occuper des entraînements ou il y a un intervenant spécifique?
On va embaucher pour ça deux animateurs BPJEPS APA, donc activité sportive adaptée. Et après, en collaboration avec les clubs, ceux qui ont des bénévoles ou des éducateurs disponibles, nous les mettrons aussi à disposition pour créer une émulation entre le club et notamment l'école du sport. L'idée étant d'aller travailler aussi quelquefois ensemble, comme par exemple le basket, prévoir sur une dernière séance un match mélangé entre les enfants de l'école du sport et les enfants d'à peu près de la même tranche d'âge sur cette partie-là. C'est prévu aussi avec le tennis, petite compétition vraiment très ouverte à la fin entre les adhérents du club et les non-adhérents. L'idée étant, n'étant pas d'aspirer les adhérents dans les clubs, mais surtout d'aller créer de l'envie pour les enfants pour aller choisir dans ces sports qui sont des sports qui sont peut-être aussi un peu moins connus que des sports habituels qu'on a l'habitude de voir.
C'est soumis à certificat médical ?
Oui, du sport.
Puis c'était passé pendant l'étape, et c'est un peu ce qui a donné l'idée à Yann, parce qu'effectivement, pendant les temps d'accueil périscolaire, sur les 3 années où ça avait fonctionné, on avait fait tourner effectivement du sport comme ça, et après on a constaté que certains enfants avaient été s'inscrire après dans les clubs, parce qu'ils avaient eu connaissance du sport, et que ça leur avait plu, et qu'ils avaient adhéré. Voilà.
On reste dans la même logique et on reste dans une logique aussi où post-sortie Covid, confinement, quelquefois il faut aussi réactiver, réamorcer un petit peu, remettre le pied à l'étrier des personnes pour aller repousser la porte des clubs. Et d'ailleurs, toutes les réunions qui ont été faites avec les associations ont été très bien perçues là-dessus. Aucune n'a eu peur que l'école du sport justement aspire les adhérents. Et d'ailleurs, l'école du sport sera pour 2 ans. Au bout de 2 ans, on ne reprendra pas les personnes. Aujourd'hui, les inscriptions marchent très bien. Alors, on est sur des intentions d'inscription, mais on est quasi sur une quinzaine de personnes déjà qui ont fait part de leur volonté de s'inscrire sur les 24 places disponibles.
Donc, on va passer au vote, puisqu'il faut voter, puisqu'il y a des tarifs. Voilà. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc, ça y est, on a inauguré l'école des sports. Merci à vous.
Donc, toujours dans les tarifs, donc Michel Bizassia, je vais vous parler des tarifs de la cantine du restaurant scolaire et de l'accueil périscolaire. Et effectivement, on vous propose de procéder à l'actualisation de ces tarifs à compter du 1er septembre 2022 sur la même base que l'école municipale des arts, sur la base d'une augmentation de 5%. Alors, on sait que là, on a relancé le marché de la restauration scolaire, puisque ça fait déjà 3 ans qu'on est parti avec le CDAT. Donc, normalement, on ne devrait pas avoir trop de surprises, puisqu'on est sur un marché qui réclame à la fois la restauration, mais aussi le lieu d'accueil. Donc, sur la commune, on n'a effectivement pas pléthore de personnes qui pourraient nous proposer ce genre de choses, mais on sait aussi que les tarifs risquent d'augmenter parce que, ben, on le sait tous, on le voit bien quand on passe au supermarché, tous les tarifs augmentent. Donc, on est parti sur une augmentation de 5% du prix, ce qui fait... je vous rappelle que la restauration scolaire, la tarification est faite au quotient familial. Donc, on passe on est parti sur une logique de moins augmenter, bien entendu, les petits quotients scolaires que les plus gros. Donc, sur les tarifications en dessous de 500, on augmente donc de 10 centimes puisqu'on passe de 3,40 à 3,50. Après, sur les trois seuils supplémentaires, on passe à 20 centimes de plus, puisqu'on passe de 3,70 à 3,90, de 4 à 4,20, de 4,20 à 4,40. Et puis après, sur les deux tranches les plus hautes, on a décidé d'augmenter de 30 centimes et on passe donc de 4,70. De 4,40 à 4,70 et on passe également le personnel communal de 5,60 à 5,90. Voilà. Alors, la participation pour les repas, pour les enfants qui amènent leur panier repas, avant, ces enfants-là qui amenaient du PAI, on leur demandait aucune participation. Et puis, on s'est dit que c'était quand même de l'accueil périscolaire, puisqu'on garde les enfants pendant deux heures, et que pour les enfants de Georges Sand et de Jean Massé, ils profitent du quart. Donc, on demande une participation, et là, c'est pareil, on augmente de 10 centimes pour les mounards, donc on passe de 2,10 à 2,20, et de 15 centimes pour les extérieurs, donc on passe de 3,15 à 3,30. Et pour l'accueil périscolaire, donc là, on passe de 2,10 à 2,20, on fait pas de classification parce que sinon ça serait vraiment très fastidieux pour une somme pareille. Donc on passe de 2,10 à 2,20 pour tous les mounards et on passe de 3,15 à 3,30. Donc on augmente de 15 centimes pour les personnes extérieures. Voilà. Donc on vous demande d'approuver ces tarifs.
Sachant que là c'est ce qu'on facture aux familles, il est bien évident que le CDAT, lorsqu'il va nous facturer, on va avoir sans doute des augmentations importantes dans les... On est à 6,20 déjà, mais à mon avis, ça va continuer à monter. On est à 6,20. Le CDAT nous facture les repas à 6,20 €. Aujourd'hui, on verra dans les mois qui viennent. Des questions par rapport à cette tarification ?
Corinne Mong, juste... très honnêtement, j'aurais préféré qu'on puisse ne pas augmenter les tarifs à la rentrée. Je vous le dis en toute sincérité parce que c'est vrai que ça paraît pas énorme, hein, je suis bien d'accord. Et j'ai bien vu qu'on a veillé à augmenter par tranche différemment. Mais c'est vrai qu'on sent qu'aujourd'hui, c'est tendu partout. Et voilà, si on fait tous collectivement ces démarches, je ne sais pas si on va bien s'en sortir, quoi. Voilà.
C'est sûr que socialement et humainement, ça serait mieux de ne pas les augmenter, mais malheureusement, on a des conditions financières qui ne nous permettent pas de ne pas entrevoir la possibilité d'augmenter. Hein, parce que je vous explique pas, on va prendre de plein fouet toutes les augmentations sur le budget de tous les tarifs. Et puis on a le gouvernement qui vient de nous voter une augmentation du point d'indice de 3,5%. On a calculé avec monsieur le maire, ça va nous faire pratiquement 185 000 € sur une année. Hein, donc, et ça, ça n'a pas été décidé, enfin, ça n'a pas été budgété du tout et pas, voilà. Donc effectivement, on aurait préféré ne pas en avoir besoin, mais malheureusement, on peut pas s'en exempter. Voilà.
Alors, par rapport à ça, c'est vrai aussi qu'il y a quelques années, on s'est rendu compte qu'on offrait des services. Parce que la cantine périscolaire, c'est du service, parce que c'est pas obligatoire. Comme les autres services, qui étaient bien en deçà d'une certaine réalité en prix de revient, on avait dit, bah, en fait, il faut qu'on continue, parce que le contribuable de base qui ne profite pas des services proposés, lui, il voit sa taxe foncière, par exemple, augmenter. Donc on s'était dit, il y a quelques années, il faut augmenter aussi, il faut répercuter sur les prix des services proposés aux habitants. Donc c'est aussi cette logique-là. Mais ce que vient d'évoquer Michel Bizacia, c'est vrai. Moi, je suis très inquiet pour la sortie d'exécution budgétaire en fin d'année. Parce que vous le savez que si on n'a pas d'excédent, on n'a pas d'autofinancement. Et si on n'a pas d'autofinancement, on ne peut pas financer nos investissements. Et là, quand on a une masse salariale qui représente 67% de dépenses, avec ce qui s'annonce, parce qu'on dit 3,5%, mais après, il y a tous les effets ricochés derrière, plus sur ce qui reste, 33% de fonctionnement avec tous les fluides, le gaz, l'électricité et l'eau, je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Je ne parle pas, bien sûr, des fournitures de bureaux, les papiers, voilà. Je suis vraiment très, très, très inquiet. On a des petites marges quand on bâtit le budget, mais là, je crois qu'elles vont fondre à vue d'œil. Et alors, là aussi, le principe de la revalorisation du point d'indice pour les fonctionnaires, ça n'a pas bougé depuis 10 ans, alors que je pense que les fonctionnaires, ainsi que le personnel de la Sécu, je crois que ça va suivre. C'est tout à fait. Non, mais c'est légitime. C'est légitime. Sauf que, quand ça nous tombe dessus, il y a l'AMF qui a fait une motion auprès du gouvernement en disant c'est très bien pour nos personnels, mais à un moment donné, on ne peut pas non plus avoir notre propre logique budgétaire et prendre de plein fouet les décisions gouvernementales. C'est pareil que pour la disparition de la taxe d'habitation, où elle est reconduite, mais sur un montant qui est figé. Alors qu'habituellement, quand on l'encaissait, année après année, elle était forcément actualisée. Donc là, il y a des manques à gagner qui se positionnent. Il y a des arbitrages à rendre. Et donc l'idée, c'est de dire, ben, oui, on va augmenter nos services. Bon, 5%, ça peut paraître important. C'est quelques centimes à chaque fois. Je suis d'accord. Mais on ne peut pas faire autrement, quoi. D'autres questions par rapport aux tarifs du périscolaire et de la cantine? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Les tarifs sont donc validés à l'unanimité. On passe ensuite à la question numéro 15. Donation des caveaux suite à reprise de concession perpétuelle. Alors, lors de la séance du 14 avril 2022, vous avez décidé, nous avons décidé, la reprise des concessions de cimetières en état d'abandon. Donc celle ci-dessous, donc au nom de la commune, et la remise en service de ces dernières pour de nouvelles inhumations en les réattribuant sous forme de nouvelles concessions d'une durée de 50 ans. Il y en a 27. Donc vous avez la liste. Donc ces concessions sont en état d'abandon, dans des états souvent très préoccupants parce qu'il y a des pierres tombales ou des monuments qui bougent et qui s'effondrent. Donc certaines de ces concessions sont des caveaux. Donc nous proposons d'en faire don à l'État. Tous travaux de remise aux normes seront à la charge de l'acquéreur. Ça veut dire qu'on a deux options. Soit on les remet en l'État et ça a un coût pour la commune, et après on les revend. Soit on les donne en l'État, charge à la famille qui va en bénéficier de le remettre en l'État. Donc nous, on vous propose, comme ça nous coûterait plus cher de les remettre en l'état plutôt que de les vendre, d'en faire don aux demandeurs. Il fallait que vous m'aviez précisé que néanmoins, les tarifs des cimetières seront appliqués. Ouais. Voilà. Des questions ?
Blanchard, juste une question pratique. Si on fait, la personne achète une concession dans l'État, donc dégradée, si elle trouve un cercueil des eaux, c'est quoi ? Elle en fait quoi ? C'est elle qui s'occupe de tout ça ou il y a un service qui va débarrasser, on va dire malheureusement, des vestiges ? C'est une question.
Je veux dire, effectivement, on a un ossuaire, donc on peut mettre les.
Ouais, c'est une question pratique. Hein.
Oui, non, mais c'est ça, hein. Bien sûr. Faut la remettre en état, la concession, ça veut dire la nettoyer, la vider, peut-être retirer la pierre tombale ou le monument, enfin tout, faire tout ce qu'il faut pour que ce soit en état d'attribution. Okay. C'est tout. Mais c'est la même logique que quand, par exemple, tu as un caveau pour 6 cercueils, petit à petit, qu'il y a un nouveau décès ou deux nouveaux décès, on retire les plus anciens et voilà. Ok. Donc, qui est contre le principe d'en faire une donation ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc, on acte la décision à l'unanimité. Et je vous en remercie. Et je repasse la parole à Rémi.
Donc, la délibération suivante, Rémi Mounier, concerne donc les subventions aux associations. Donc, comme on l'a dit l'avant-dernière, on a fait quelques économies sur les subventions puisqu'on a, on n'a pas reversé les 2 500 € de subventions exceptionnelles au CERF puisqu'ils n'en avaient plus besoin. Donc si cet argent est réinvesti, on le remet dans le pot commun, il est réinvesti et réinvesti à travers de subventions exceptionnelles qui nous ont été faites cette année donc par deux associations. Donc Monsieur le maire expose, je vous propose de verser une subvention exceptionnelle de 200 € à l'association Saint-Priant-Jarret Basket pour l'achat de ballons et une subvention exceptionnelle de 400 € à l'association Tennis de Table pour l'achat. Alors là, il y a une erreur, c'est pas d'une table, mais c'est de deux tables. Alors je rentre un peu plus en détail. Au niveau du club de basket, ils nous ont sollicité donc cette année puisqu'ils changent l'intégralité des ballons. Donc il y a des devis déjà qui ont été faits. Il y a 1 500 € qui vont être engagés. On participe parce que ces ballons vont être utilisés dans le cadre de l'école du sport sur l'activité basket et ils sont aussi utilisés quelquefois par d'autres associations voire par les scolaires. Et le club est aussi en train de voir avec le conseil départemental pour obtenir aussi une autre subvention. Donc on participerait nous à hauteur de 200 €. Et puis pour le tennis de table, c'est quelque chose que l'on voit assez souvent. En fait, c'est le comité de tennis de table de la Loire, le comité départemental, qui propose régulièrement à ses clubs adhérents de racheter les tables qu'elles ont utilisées après l'organisation de compétitions importantes. Donc souvent, ce sont des tables de très grande qualité et qui sont presque neuves puisqu'elles ont été utilisées juste dans le cadre de cette manifestation. Donc ils permettent aux associations de les reprendre. Et dans le cadre du renouvellement de son matériel, l'association essaye à chaque fois de saisir l'opportunité. Donc là, les deux tables, il y en avait pour un montant de 1 500 €. L'association a obtenu par notre aide une première subvention de 600 € de Pierrick Courbon, donc à travers le conseil départemental. Et donc nous, on participe à hauteur de 400 €. Puisque là aussi, ces tables sont utilisées dans le cadre des enseignements scolaires. Puisqu'il y a un partenariat avec l'école Jean Massé. Donc l'école Jean Massé vient assez souvent pratiquer le tennis de table. Et puis le tennis de table est aussi inscrit à l'école du sport. Donc ces tables elles seront utilisées aussi dans le cadre de l'école du sport. Donc voilà pourquoi on participe à l'acquisition de ces tables à hauteur de 400 €. Est-ce que vous avez des questions sur ces deux subventions exceptionnelles ?
Donc on va passer au... Oui, Marc ? Marc Jotti.
Je ne sais pas. Ça, c'est l'association... Alors, je pense que s'ils s'en débarrassent, c'est qu'ils sont fatigués.
Ils ont usé les ballons.
Oui. Après, je ne pense pas qu'une autre association qui pratique le basket reprendra des ballons vraiment usagés, mais... Mais On pourrait le prévoir avec eux, voir ce qu'ils en font plutôt que de les jeter, oui. Oui, oui. Ça peut être, on pourra leur en parler, voir s'il n'y a pas une possibilité de.
D'accord. On retient l'idée. Donc, qui est contre ces subventions exceptionnelles? Qui s'abstient? Qui est pour? Pour qu'elles sont octroyées à l'unanimité. Merci. Pour les deux associations. Le point 17 concerne donc la modification du tableau des effectifs. Donc là, je ne vous refais pas l'histoire. Vous savez qu'on vous en présente quasiment à chaque conseil. Un adjoint technique principal de deuxième classe, titulaire à temps non complet à raison de 22 heures sur 35 et affecté au jardin d'enfants de Pégase, a présenté sa demande de mise en retraite. Pour garantir la continuité de l'activité du jardin d'enfants de Pégase, il convient donc d'ouvrir un poste d'auxiliaire de puériculture de classe normale à temps non complet à raison de 22 heures hebdomadaires. C'est une première chose. Un adjoint du patrimoine principal de deuxième classe à temps partiel à raison de 80% du temps complet a fait part de sa volonté de bénéficier d'une disponibilité pour convenance personnelle à compter du 18 juillet. Pour permettre d'engager la procédure de recrutement pour assurer son remplacement, il convient d'ouvrir au tableau des effectifs un poste sur chacun des grades du cadre d'emploi des adjoints territoriaux du patrimoine à temps non complet, à raison de 80% du temps plein. Ça, c'est la deuxième situation. Ensuite, par délibération 22-06-07 du 7 juin 2022, un poste d'adjoint administratif principal de deuxième classe et un poste d'adjoint administratif principal de première classe, tous deux à temps non complet à raison de 50% du temps plein, ont été ouverts. Il a été décidé de transformer un poste d'adjoint administratif à temps complet en poste à temps non complet à hauteur de 50% pour permettre d'ouvrir la procédure de recrutement d'un agent en charge du secrétariat du service enfance, jeunesse et vie associative. Or, un animateur principal de première classe titulaire au sein de ce même service vient de demander sa mutation vers une autre collectivité, à compter du 15 août 2022. Pour permettre une nouvelle organisation du service, il est nécessaire de porter le temps de travail des postes ouverts relevant du cadre d'emploi des adjoints administratifs à 75% et d'ouvrir un poste de rédacteur territorial et un poste d'animateur territorial sur chacun pour cette même quantité de travail de 26h15 hebdomadaire. Donc, c'est une actualisation. Vous avez compris que on a un départ au niveau de la petite enfance, donc il faut le remplacer. On a également un départ au niveau de la médiathèque, donc il faut également le remplacer. Et au niveau de la maison d'association pour l'enfant jeunesse, on avait donc un départ, celui de la secrétaire administrative, qui était un poste à temps plein qu'on envisageait de remplacer à 50%. Et dans le même temps, on a un départ d'une animatrice. Donc, plutôt que de faire un maintien à 50% de l'activité de secrétariat et recruter un temps plein sur le poste d'animateur, en accord avec les élus en charge de secteur et donc le chef de service, Ayan, et ses collaborateurs, on propose donc de faire deux postes à 75%. Ça fait toujours à l'effectif 1,5 équivalent temps plein, mais là, ça sera deux postes à 75%. C'est ça, en fait, l'actualisation du tableau des effectifs. Vous avez des questions par rapport à cette situation? Donc, ça va être effectif mi-août pour l'animatrice. Pour la secrétaire, c'est début octobre, parce qu'il y a des congés. La médiathèque, c'est effectif, bientôt, mi-juillet, je crois. Oui, on est d'accord. Voilà. Des questions? Donc, c'est toujours l'actualisation. Je vous rappelle la logique. On recrute, donc on prévoit certains types d'emplois. Quand la personne est recrutée, on revient vers vous en supprimant les emplois qui ne sont pas pourvus. Des questions? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Personnel communal, maintien du régime indemnitaire en cas de maladie ordinaire. Alors, là aussi, vous avez un développement relativement long sur la structuration des indemnités versées à nos personnels. Donc je vous invite de passer à la troisième page, où en fait c'est le but. La situation était la suivante. On a donc dans la composition d'un salaire le coefficient en points multiplié par la valeur du point, donc il va augmenter 3,8%. Et puis il y a tout un ensemble de primes dont la majeure partie sont regroupées aujourd'hui au sein de l'IFSE. C'est une prime unique qui regroupe l'ensemble des primes qui existaient avant. La demande qui a émané des personnels il y a maintenant 4 ans, c'était de dire quand un agent est malade, bon, il a le maintien de son salaire sauf le jour de carence, mais ses primes s'arrêtent tout de suite. Alors après, il y a la problématique de la longue maladie, etc. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un moyen de maintenir tout ou partie des primes, parce que ça fait quand même parfois une chute brutale du revenu. Donc, dans le cadre du comité technique, il y a 2 élus et 2 représentants du personnel qui ont travaillé. Antoine faisait partie des représentants des élus. Et donc, on vous propose la solution suivante. Il n'existe aucun cadre juridique en faveur du maintien du régime indemnitaire en cas d'absence pour maladie dans la fonction publique territoriale. Le maintien du régime indemnitaire au profit de l'agent territorial placé en congé de maladie n'est prévu ni par l'article 57 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 qui précise uniquement les conditions de maintien du traitement ou du supplément familial de traitement, ni par aucune autre disposition législative ou réglementaire. Parfois, les textes instituant les primes et indemnités peuvent fixer des conditions particulières de modulation ou de suppression durant les congés de maladie. Quand cela est le cas, la collectivité est alors tenue d'appliquer au moins des restrictions identiques, puisqu'elle ne peut instaurer un régime plus favorable que le régime de référence au regard du principe de parité. Cependant, dans la plupart des cas, et notamment pour les différentes primes versées aux agents de notre commune, aucune règle n'est prévue, et il relève alors de la compétence du conseil municipal de déterminer les règles applicables en matière de maintien du régime indemnitaire en cas de congé maladie. Conformément à la jurisprudence administrative et aux réponses ministérielles venues apporter des précisions sur le sujet, les principes suivants peuvent être retenus. Le maintien du régime indemnitaire durant les périodes d'absence liées à un congé est possible. Ce maintien ne constitue néanmoins pas un droit acquis, a fortiori, pour les avantages liés à l'exercice effectif des fonctions. Conformément au principe de parité, les règles de maintien des primes pour les fonctionnaires de l'État, telles que fixées par le décret 2010-997 du 26 août 2010, peuvent donc servir de référence. Donc on s'inspire de ce qui est fait pour les fonctionnaires d'État. En l'espèce, les fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique d'État bénéficient du maintien des primes et indemnités dans les mêmes proportions que le traitement en cas de congé annuel, congé de maladie ordinaire, congé pour accident de service ou accident de travail et maladie professionnelle, congé de maternité, paternité et adoption. En principe, l'ensemble des primes et indemnités versées ont vocation à être maintenues dans les mêmes conditions que le traitement au cours du congé cité ci-dessus. Sur la commune, le maintien du versement des primes en cas d'absence a fait l'objet de 2 délibérations du conseil municipal en date du 5 décembre 2005 et du 15 décembre 2008. Dans la pratique, outre les dispositions prévues dans ces délibérations, une règle coutumière est appliquée pour les arrêts maladie ordinaires selon leur durée, donc actuellement. Pour les arrêts de 1 à 3 jours, application du jour de carence pour le premier jour, mais pas d'impact sur les primes pour les autres jours. Pour les arrêts de plus de 3 jours, impact sur les primes sur la totalité des jours d'arrêt. Fin 2021, un groupe de travail composé de 4 membres du comité technique, donc 2 élus de la collectivité et 2 représentants du personnel, a été créé pour proposer de nouvelles règles à appliquer sur l'impact des arrêts de maladie ordinaires sur le régime indemnitaire. La feuille de route fixée à ce groupe était ne pas mettre en place des règles favorisant l'absentéisme, limiter l'impact sur les primes pour les arrêts de courte durée, créer une règle facilement gérable par le service ressources humaines. Il est donc proposé au conseil municipal de mettre en place à compter du 1er septembre 2022 les règles suivantes qui ont été présentées et validées lors du comité technique du 23 mai 2022. pour les arrêts maladie ordinaires de 1 à 5 jours calendaires. Application du jour de carence pour le premier jour, puis maintien des primes à 100% pour les autres jours. Donc pour les 4 jours qui suivent, au maximum. Pour les arrêts maladie ordinaires de plus de 5 jours calendaires, application du jour de carence pour le premier jour, puis maintien des primes à 50% à partir du deuxième jour et suppression totale des primes lorsque l'agent passe à demi-traitement, soit au bout de 90 jours. Voilà. Donc, on a fait un geste, il me semble, relativement appréciable dans l'attente de nos personnels. Alors, on s'est basé, bien évidemment, sur ce qui pouvait exister dans la fonction publique d'État, mais ça, c'est la collectivité qui est souveraine dans ce domaine. Le comité technique, je vous rappelle, qui regroupe les représentants des personnels et des élus de la collectivité, s'est prononcé favorablement pour ce nouveau dispositif. Donc maintenant, on vous le soumet. Des questions ? Oui, il y a une clause de revoyure, c'est-à-dire qu'on fera un bilan chiffré au bout d'un an. On n'a pas sur la commune... on a deux typologies d'arrêts de travail, soit des arrêts relativement courts, soit des arrêts qui sont très longs, parce que, arrêt de travail ou accident, etc. Mais on n'a pas, en tout cas, détecté des arrêts de complaisance qui duraient. En tout cas, plus depuis quelques années.
Oui, moi, Corinne Monk, ça m'interroge sur les arrêts de courte durée. Effectivement, j'allais te poser la question sur les stats, donc tu m'as répondu avant, merci. Il faudra effectivement juste surveiller qu'il n'y ait pas un impact sur les arrêts de courte durée, à contrario, puisque typiquement, ça peut favoriser ce type de problématique.
Nos arrêts, en moyenne, sur les 3 dernières années, je crois qu'ils seront entre 2 et 3 jours. Donc, il ne devrait pas y avoir un gros impact. Après, sur le vrai problème, c'est pour les personnes qui vont au-delà de 5 jours et qui, à un moment donné, vont arriver en longue maladie. Et là, pendant cette période-là, c'était difficile. On passait entre le 5e jour et le 90e jour, il n'y avait plus que le salaire indiciaire, quoi. Donc je pense que là, on a fait à la demande des représentants du personnel un geste dans leur sens et qu'ils seront, je l'espère, appréciés. Mais là aussi, ça va venir s'ajouter à l'évolution de notre masse salariale, inévitablement. C'est pour ça qu'on a dit on se reverra dans un an pour bien chiffrer l'impact. On a ce que ça coûtait avant, ou les économies à l'inverse qu'on réalisait, on verra dans un an comment ça s'est passé. Des questions ? Autres ? Donc, qui est contre ce dispositif ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc, ce nouveau mécanisme d'accompagnement des collaborateurs en arrêt maladie est validé à l'unanimité. Je vous en remercie. Moi, je n'ai plus d'autres questions. On va répondre à vos questions diverses si vous le souhaitez. Je vous rappelle simplement que le prochain conseil aura lieu le lundi 5 septembre à 19h. D'autres questions avant de vous souhaiter de bonnes vacances, bien méritées ? 14 juillet, hein, souvenez-vous, pour ceux qui sont là, il y a pas mal de choses. Le concours de boules, alors je crois qu'il y a Claude qui est inscrit. Rémi, bon, on ne sait pas. Mireille, Claude, Antoine, il y avait qui ? Oui, moi aussi, je vais peut-être avoir du mal à lancer les boules, mais on verra. Il y avait qui ? Non, pas Sylvie, je ne crois pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y avait Jacques Pellegrin, voilà, 8. Très bien. Donc, et puis après, il y a des jeux, des animations l'après-midi sur la... Oui, je l'ai dit. Sur la place, il y a donc un repas le soir proposé, c'est une paella, c'est ça ? Il y aura le feu d'artifice vers 22h30. Pour ceux que ça amuse avant ou qui ont des petits-enfants, la retraite au flambeau, le feu d'artifice et puis après le bal.
Les crêpes.
Des crêpes.
Important.
Et le concours de pétanque organisé par le cercle. Mais là, c'est plus sérieux, c'est les boules lyonnaises.
Il y a aussi un petit concours familial sur la place.
Oui, c'est ça, pétanque.
Oui, mais pas celui du cercle. Il y en a deux.
Oui, oui. Mais le cercle, ça commence tôt le matin et puis c'est joué avec des boules lyonnaises et tout. Écoutez, je vous souhaite un très bon retour dans vos foyers, de très bonnes vacances. Prenez des forces parce qu'on va avoir, on a un séminaire, vous avez reçu, qui est prévu à la rentrée. On va avoir des gros dossiers. On va avoir l'avancée sur Jules Ferry, puis deux ou trois autres gros dossiers comme Georges Sand et la salle de la Bargette. Bonne soirée à tous.